Jusqu'au bout, comment ça va, vous, en ce quoi? Jeudi 10 août 2023, c'est pour ceux qui, comme moi, d'ailleurs, ont parfois un souci avec le jour, la date, l'année. Vous, je sais pas, j'ai parfois du mal avec le jour, la date, n'en parlons pas, je ne sais jamais quelle date on est à 15 jours près. Et l'année, j'ai des doutes, souvent. Ça vous arrive ou pas d'avoir des doutes sur l'année? Je me gourre assez facilement d'années, voilà. En même temps, quand on est au XVIIe siècle comme moi, c'est, voilà, on est un peu perdu. Ça vous arrive ou pas? C'est un vrai truc que je... Oui, au début de l'année, me dit Fastos. Okay, au début de l'année. Sur l'âge, non, là-dessus, culotte courte, je suis carré. Tout le monde sait que j'ai 23 ans et que c'est un fact. Enfin, j'ai une info, quoi. Voilà. Moi, j'ai souvent des doutes sur mon âge, me dit Matt. Natou la niçoise, l'année qu'on vit, ou préfère l'oublier, dit Caradoc. 23 ans et demi, précise Diesel. Ok, d'accord. Ok. Donc, vous avez pas trop de doutes sur l'année dans laquelle on est, quoi. Ok, moi, ça m'arrive très souvent. Je me gourre souvent, d'ailleurs. Ouais. Surtout quand je signe des chèques, je me gourre souvent. Peut-être avec le sentiment illusoire que de me gourer sur la date va empêcher la banque d'encaisser mon chèque, et puis en fait, pas du tout. Donc, ça ne sert à rien. Ouais. Ouais, la barbe, on se laisse un peu aller, ouais. Ouais. J'ai un petit bout de chou là, il y a la maison qui m'a dit, dis donc, ça pique, tu pourrais. Et puis j'ai la flemme le matin et ça me permet de gagner quelques minutes sur le lancement du stream. Voilà. Voilà. Bon, comment ça va vous? Je remercie Black Anay, merci beaucoup pour ce 22e mois d'abonnement, c'est énorme. Troisième mois d'abonnement pour Beto Guard, tu as été le premier sub du matin, merci. Et je remercie Gono Woku et Ejuan 1 qui ont sub entre les deux streams, celui d'hier et celui de ce matin, merci beaucoup. Comment ça va vous? Ouais, je sais que l'échec... Non, je sais qu'on ne fait plus beaucoup de chèques. Moi non plus, j'en fais plus beaucoup, mais ça m'arrive encore. Genre, quoi, t'en fais un ou deux par an maintenant, hein? Michel Deguerre, très bonne question. Maintenant que tu n'as plus la matinale de France Info, tu te lèves à quelle heure du matin? J'ai gagné 3 heures de sommeil, c'est énorme. C'est-à-dire que pour la matinale de France Info, je me levais à 2 heures. Et pour la revue de presse ici, sur Twitch, je me lève à 5 heures. Voilà, donc, c'te fête. Et d'ailleurs, j'ai un dilemme dont je voulais vous parler ce matin, puisqu'on est entre nous, cool. Tiens, j'avais pas vu cette émission sur France Inter. Merci Red Metal. Ça a l'air intéressant. Ouais, un dilemme. Lequel? Alors en fait, donc moi j'ai arrêté la matinale de France Info parce que 7 ans de lever à 2h du matin faisait qu'au niveau de la santé, je commençais à un peu payer cher et je voulais pas prendre de risques par rapport à ça, même si c'était bien cool de travailler avec les gens de France Info que j'aime beaucoup. Donc ça c'est fait. À la rentrée, j'ai toujours question pour un champion. Et on a toujours le petit souci, c'est-à-dire que les jours de question pour un champion, en gros, j'enregistre entre 8h30, 9h et 19h, quoi. Et donc c'est compliqué de faire une revue de presse le matin d'une matinée Étienne qui est censée être entre 9h et midi. Alors là, j'ai un souci par rapport à ça parce que mon intention pour la saison qui arrive à partir de septembre, c'est d'être bien plus présent sur Twitch qu'avant. Alors ça va se matérialiser par une nouvelle émission hebdomadaire. Vous le savez, le dimanche soir, ça commence fin août, 20h. Ça me plaît. Une immersion dans un jeu vidéo avec un invité passionné de ce jeu vidéo. On maintient l'hebdo Étienne le vendredi soir pour revenir sur l'actu de la semaine avec 4 invités. Ça bouge pas, c'est sympa. Et puis l'idée, c'est de faire plus de revues de presse le matin. Donc la question que je voulais vous poser, c'est j'aimerais bien également présenter la revue de presse les jours où je fais question pour un champion. Voilà. Et c'est là, en termes d'horaire, où c'est compliqué parce qu'en gros, j'ai fait mon petit calcul ce matin. En me levant à 5 heures, en gros, je suis prêt à lancer le stream à 9 heures, quoi. 9h et quart, comme là, quoi. En raison de temps de préparation, de la lecture, du choix des articles, des coups de stabilo, de l'enregistrement des petites revues de presse express pour Instagram, TikTok et Twitter, pour ceux qui n'ont pas trop de temps. Et donc, l'idée, ce serait de faire une revue de presse, on va dire, entre 6h et 8h, tu vois. Donc, que vous la chopiez en direct ou en replay, comme ça, elle existe quand même, cette matinée Étienne sur Twitch, et vous pouvez la voir ou en direct si vous êtes super lefto, 6-8. Diesel est super sceptique, en termes de nombre de viewers, ou en replay, hein, on serait un peu dans le service, quoi. Vous voyez l'idée? Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? L'idée, c'est d'être là tous les jours, de pas avoir cette coupure dans l'info, c'est un peu gênant quand même. Caradoc dit ça vaut le coup d'essayer. Remake, pourquoi pas, ce serait intéressant de voir. Très très chaud, dit Wasp. Ouais. Avec les replays et tout, ça se tente, pourquoi pas. Carrément trop bien en vrai. Une fois par semaine, non, non, non. Ou un format plus court en live. Pas en live. Hein? Qu'est-ce que. Ouais, donc c'est pas possible en live pour vous, pour beaucoup d'entre vous d'être là, mais il y aura du replay pour Noni par exemple. Ça se tente, hein, ça se tente. Voilà. Ou alors j'arrête question pour un champion, dit PPBB 54. Non, ça c'est pas d'actualité du tout. Non, 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 ça je kiffe trop. Ouais. Parce qu'en fait ça m'ennuie. Raconter, merci Godgood pour le Prime à l'instant. Raconter l'information, c'est un peu un truc du quotidien quoi. Si tu loupes, question pour un champion, c'est 7 jours d'enregistrement par mois. Si tu loupes 7 jours, on va dire sur 20-21 jours de stream, quoi, minimum, en fait c'est beaucoup, hein, c'est un tiers en fait. Kalim dit, monsieur, ce serait super, c'est exactement l'heure où je me lève. Donc je pourrais t'écouter. Leken, les replays sont en sub only sur Twitch. Effectivement, ils sont gratuits sur YouTube. À partir de 13h, là, ce replay, tu l'auras sur YouTube par exemple gratuitement, quoi. En revanche, c'est vrai que. C'est cool de réserver aux abonnés des petits avantages, notamment d'avoir les replays sur Twitch et de pouvoir arriver sur ce stream à n'importe quel moment le matin et pouvoir reprendre au début. Voilà. Le soir, non, une revue de presse. Question. Tisolai dit à l'instant. Et le soir, c'est pas possible? Ah. Ouais. Le soir, c'est intéressant. C'est-à-dire. Ouais, lire les journaux le matin et puis faire le stream le soir. Ah, pourquoi pas. Ah, c'est-à-dire que le matin, je me lève tôt, je lis les journaux, je fais mes petites revues de presse express, Twitter, Twitch, Insta, tout ça. Et par contre, le stream, je le réserve pour le soir. Ah, intéressant. C'est... Qui m'écrit là? Ah non, c'est rien. Tiens, je vous lis là-dessus. Soir ou tôt le matin, c'est ça? On va faire un sondage en fait. Ah, un sondage. Si tu n'essayes pas, tu sauras pas, dit Remake. Ça, on est bien d'accord que ça va s'essayer de toute façon. Hein. Tiens, on va tester cette histoire du soir. On va faire un sondage. John Doe dit le soir ça fait beaucoup de décalage par rapport à l'impression des journaux. Ouais, mais il y a le monde qui sort l'après-midi. Et puis on actualiserait les actus, quoi. Ouais. Pas mal le soir. Pour concurrencer le 20h, dit Klaus Breit. Voilà, pour remplacer le journal de 20h, dit Candy, avec son joli badge gold là. Attends, je le kiffe ce badge, il est trop beau. Ouais. Ça ferait quelle heure? Bah ça ferait. Je sais pas, 20h-22h. Très 20h-22h. Oui et non, parce qu'on aura déjà les infos dans la journée à voir. Je finis à quelle heure, question pour un champion? Vers 19h en général, diesel. Donc je peux être en stream à 20h, quoi. Ah, la vie de famille, oui, ça c'est sûr. Mais bon, je trouve qu'un rendez-vous d'actu censé être quotidien, qui n'est pas là 7 jours par mois, pardon, mais ça pue du cul, quoi. Merci Natu Noked ou Nokaid pour le Prime, merci beaucoup. J'avais pas vu Maddy, merci Maddy 99 Mado pour le 8e mois d'abonnement, dis donc. Merci à toi. Ou alors je fais 6-8 le matin, quoi. Le soir serait 20h-22h. Le soir, il y a les hebdos déjà. Oui, mais salut Défécateur. Oui, mais les hebdos, c'est le vendredi. Et le dimanche. Comme je stream plus le dimanche matin, ce serait bien quand même. Sir Shorao dit, je suis pour le soir, sinon tu vas te tuer à te relever à 3h. Bah, ce serait même 2h en fait. Hélène, tu en penses quoi? Est-ce que Hélène est dans le... Est-ce que mon amoureuse est dans le... Salut Julo. Julo, en fait, la question que je me posais, il y a notre ami Julo Kemodo qui vient d'arriver, c'est de savoir si... moi j'ai très envie de streamer même les jours où j'ai question pour un champion, ce que je ne faisais pas jusqu'ici. L'actu, la presse, quoi. Donc la question, c'est est-ce que je me lève très 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 tôt pour faire un live le matin entre 6h et 8h, et après je vais à question, ou est-ce que je stream le soir? Pas mal le soir aussi. Hein? Ça s'appellera la soirée Étienne. Bah ouais, ça s'appellera la soirée Étienne. Oh, Exutoire est super méchant avec moi. Il me dit non, à 20h, on regarde les vrais streamers. Oh, c'est dur ça. Ça, c'est dur ça. On va faire un sondage, mais je vous lis un petit peu. Il est où le sondage? Il est où le sondage? Il est où le sondage? Me demande Anas Sensei. Bah, il est là, on y va. Sondage. Alors, donc, je dis, je parle bien de pas changer l'heure de la matinée Étienne, les jours classiques, quoi. C'est, tout sera toujours du 9h midi. Mais les jours où je fais question pour un champion, 7 jours par mois, est-ce que je fais ça le matin, 6h-8h, 6h-8h du mat, voilà, ou je fais ça le soir? On est parti. Alors, donc ça donne le jour de questions pour un champion, QPUC pour les intimes, le live le matin 6h 6h 8h, ok, j'espère que les slash sont autorisés sur les sondages, on verra bien. Le soir 20h 22h. Pas mal ça. En termes de rythme, c'est peut-être plus facile. Ou alors tu te reposes. C'est-à-dire qu'il y a 7 jours où je suis pas là pour l'info, quoi. M'ennuie ça. Et vous avez le droit de pas avoir d'avis, donc je mets aussi je ne sais pas. Le sondage est prêt, il est parti, vous avez 2 minutes. Voir les résultats. Et je vous lis pendant ce temps-là, pendant que le sondage est en train de s'installer. Au pire, tu streames le soir que quand tu as question pour un champion. Ouais, c'est ça, Matt Kaneki. Exactement, c'est la proposition en fait. Le soir. Julo dit le soir. Ok. Il faut aussi que ton stream n'impacte pas ton énergie à question pour un champion. Tu sais, ça fait 7 ans que je présente question pour un champion. Et ça fait 7 ans en fait que quand je présente question pour un champion, la plupart du temps, je me suis levé à 2h du matin parce que j'avais la matinale de France Info. Donc. Bon, si jusque-là, question, ça allait, l'énergie sera la même, quoi. Ça, ça va. Le soir, c'est bien surtout pour ta santé, dit Nausicaa. En vrai, choisis-toi ce qui t'arrange, me dira Irax. Au final, c'est ce que je vais faire. Mais éclairé par vos avis, en fait. Ce qui nous permettrait de revenir sur les infos du matin, les infos de la journée aussi, avec parce qu'en fait, dans les journaux, et on va encore le voir aujourd'hui, ça, aujourd'hui c'est une démonstration, dans les journaux le matin, vous avez quoi? Vous avez bon, bah, des articles sur l'info brute qui vient de se passer, l'info chaude, ce drame-là par exemple, dans un gîte en Alsace hier matin, c'est la une du Parisien et de Libération, il y a des choses comme ça. Puis il y a des choses sur des sujets un peu plus intemporels qui éclairent notre monde, notre société, qui sont toujours bons à 9h le matin comme à 20h. Quoi. Et ça, c'est l'essentiel de ce que je fais en fait. Tiens, je vous mets le sondage qui est en train de se terminer. Toc, ça c'est vide, c'est normal. Tac, il est là. Ah, c'est parti. Ah ouais, c'est quand même un petit plébiscite. Hein. Ouais, ok. C'est un petit plébiscite ce matin pour le soir plutôt. Ah, bah en fait, alors je remercie, vous savez, moi j'étais vraiment bloqué sur cette histoire de comment streamer le matin malgré tout, même en question pour un champion. Et quelqu'un dans le chat a dit, et le soir? Et en fait, je ne m'étais pas posé cette question. Voilà. D'où l'intérêt d'échanger et d'être communauté. Merci à la personne dont j'ai oublié le pseudo parce que je suis vieux d'avoir fait cette remarque. Et qu'est-ce que ça donne un plébiscite pour le soir, hein, 47%, 31%, et vous êtes gentil, vous êtes des cœurs, rien, tu te reposes chouchou, ok, et en fait le matin vous êtes que 15%. Ah ben, je crois que le résultat il est clair, hein. T'avais pas arrêté, il y a infusion d'Esgeg, il dit, t'avais pas arrêté France Info pour profiter de la vie? Ouais, mais j'aime trop l'actu. Ben ouais. Oh, Infusion de Zgeg. Oh, putain, je viens de comprendre comment il fallait le prononcer, ton pseudo. Ah non, non. Oh, dégueu. Arrête. Oh. Putain, je me suis fait avoir. Oh. Ah, trop. Je le relis pas. Grrr. Bonne remarque, le pseudo spécial, hein, quand même. Je vous lis. Je vois avec Hélène et les garçons. De toute façon, culotte courte, tu as raison. Cette décision qu'on prend ensemble, que je vais prendre, elle va être soumise à la famille. De toute façon, je ne prends aucune décision importante sans la soumettre à la famille, notamment à Hélène, qui me connaît par cœur, sachant qu'elle a un respect infini pour ma passion, pour mon travail. Donc, elle intègre ça. Et puis après, elle me dit si c'est gênant ou pas au niveau de la vie de famille, quoi. Et puis on reviendra. Ce qui sera bien, c'est que j'aurai tous les articles du matin que j'aurai mis de côté pour vous. Et puis en plus, on se penchera sur les grosses infos de la journée. Hein, vous me direz, tiens, il y a ça qui s'est passé, ça qui s'est passé. Puis on ira chercher des bonnes sources et on en parlera. Hein. C'est pas mal ça. Hey, je suis très content de cet échange-là. Hein. Hein, je vous lis. Je vois que les modos étaient plutôt pour le soir aussi. Je vois Captain McBernick. Ok. Que je salue d'ailleurs les modos. J'ai salué Julo. J'ai salué Captain à l'instant. Anonyme. Oh, Anonyme 31, comment vas-tu? MMG7F, les meilleurs sont là. Original Pimous et Mathieu VOD Samuel de la chaîne YouTube de Papy Sam. Et l'ami Lightbot, bien sûr, qu'on n'oublie jamais. Ok. Bon, en tout cas, vous faites honneur à cette réputation de la communauté Twitch d'être plutôt du soir, pour dire les choses, hein, moins du matin, hein. C'est vrai que le 6h-8h n'a recueilli que 15% des suffrages quand même, hein. Tu auras plus de viewers aussi, dit Diesel. Alors c'est secondaire dans ma réflexion, parce que c'est pas en soi c'est pas l'objectif. Je pense que tu peux faire un stream de qualité devant pas beaucoup de monde. C'est pas le problème. Qualité et audience, c'est pas toujours la même chose. Et puis je sais que le soir, je vais être aussi en concurrence face à des très gros streamers qui font. Donc voilà, donc c'est plus en termes de rythme de vie et l'intérêt pour vous en termes d'horaire, quoi. Si je passe ma soirée sur ton stream, il va falloir gérer la jalousie de mon mari, dit la mumzette. On fera ça. Il regardera avec nous. Je lui ferai des spéciales dédicaces et tout, qui vont bien. Il y a 10 centimes 99 qui pensent que les 15% qui ont voté pour le 6h-8h là, ils ont sans doute plus de 50 ans. Oh, d'être des coquins. Hein. Bon, merci. Alors là, mais du fond du cœur, quoi. Parce que ce matin, en fait, ça fait, bon, je vous en parle maintenant parce que ça fait un bon moment que j'y pense à cette histoire, hein. De comment streamer les jours de questions pour un champion. J'y ai pensé une bonne partie de l'été. J'ai fait mes petits calculs ce matin. J'ai calculé exactement le temps que me prenait chaque phase, la lecture des journaux, le choix des articles, l'opération Stabilo, l'enregistrement des revues de presse express pour les réseaux sociaux. Et je me suis dit, putain, ça va être chaud le matin, quoi. C'est pour ça que j'ai lancé cette discussion. Nestacos, un grand merci pour le soutien. Merci pour ce Prime. Cabier, je l'ai vu. Merci pour le 18e mois d'abonnement. Pauline, comment vas-tu? Merci pour le 23e mois d'abonnement. Waouh, t'es quasiment au maxi. Rondoudou, merci pour le 14e mois, c'est adorable. Natsu Nokaid, je crois que je t'ai remercié tout à l'heure. Oui, et je le refais. Voilà. Bon, ça me fait bien plaisir cet échange. Ok, on est sur une autre piste là, qui est plutôt pas mal. Ok. Bon, sinon bon, on va y aller, hein. Voilà, on n'est pas obligé d'attendre les 30 minutes max d'introduction qu'on s'est fixé ici. On va pouvoir se faire un petit sommaire. Vous en pensez quoi? Je vais vous montrer ce qu'il y a dans les journaux ce matin, hein. C'est pas parce qu'on est en août et qu'on est le jeudi 10 août qu'il n'y a pas les articles intéressants. Au contraire, c'est même super intéressant. Alexandra, bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que j'ai un go?
Oh, yes.
Est-ce que j'ai un yes?
Yes.
Un petit yes, vous me le donnez le go?
Yes.
Ok, c'est parti. Bien sûr, Jacara 2, qu'on reprend les streams du vendredi soir à la rentrée, l'hebdo Etienne, elle reprend saison 2, bien sûr. Dernier vendredi d'août, donc ce sera la reprise. Et dernier dimanche d'août, le 27, ce sera la première de Sam Play. C'est parti, le petit sommaire, l'essentiel de l'actu en 4-5 minutes pour ceux qui ne peuvent pas rester 2h, 3h avec nous ce matin. Bon, bah, je réatterris un peu parce qu'on va commencer par un drame dont on parlait hier matin parce que plusieurs d'entre vous, pendant le stream d'hier matin, m'avaient informé de ça. Merci beaucoup Caradoc pour... oh, c'est adorable pour l'abonnement que tu offres à Alexandra. Ce drame qui s'est déroulé donc en Alsace. C'est 11 morts dans un incendie très brutal, dramatique, dans un gîte à Winsenheim précisément, voilà, qui hébergeait des adultes atteints de légers handicaps mentaux, qui étaient venus des régions de Nancy et de Besançon. Vous avez 11 morts, 10 adultes atteints de handicap et un accompagnateur. Voilà. Donc ça, on l'a évoqué dès hier matin. D'ailleurs, on avait déjà ce bilan qui est très lourd. Et bah, ce matin, vous allez voir dans Le Parisien, dans Libération, également, c'est à la une, l'heure est à l'émotion, mais aussi aux interrogations normales, puisqu'il y a une enquête qui est en cours. Et la question, c'est de savoir si toutes les règles de sécurité étaient respectées, bien sûr, dans ce gîte. Voilà. Mais d'abord l'émotion, je pense, et je pense qu'on peut avoir, je vois vos F ce matin, une pensée pour les victimes. Et les familles des victimes qui avaient, qui devaient se réjouir de voir leurs proches partir en vacances, hein, puisque c'est de ça dont il s'agissait, et qui à un moment ont eu un coup de fil des autorités de la gendarmerie pour le prévenir du décès de leurs proches. Voilà. Donc c'est le premier titre ce matin. Je reviens à la une du Parisien. On est dans le sommaire. On va un petit peu vite. Pour l'autre gros titre du Parisien, c'est le retour du Covid. Oui, enfin, il n'est jamais vraiment parti, mais il ferait son grand retour. Merci SR22 pour ce troisième mois d'abonnement, c'est adorable. C'est drôle parce qu'il y a hier, avant-hier, mon amoureuse Hélène me disait « Mais on en est où du Covid ? On n'en parle plus. » Bon, bah, je réponds avec les infos du bord. Bah, écoute, je lui dis « Le Covid, il circule toujours, mais entre le vaccin et les contaminations, eh bien, on est une population qui est largement immunisée, voilà, et un variant, les derniers variants, qui sont moins agressifs qu'auparavant et qui circulent moins. Voilà, donc il y a moins d'hospitalisations, etc. » Donc je dis ça à mon épouse pour lui dire, et puis comme le dit Matt Delour à l'instant en mode musical, ça s'en va et ça revient. Et effectivement, le Parisien nous dit que le Covid, c'est un peu la mauvaise surprise des vacances, l'invité surprise de l'été, oui, les contaminations repartent à la hausse, on se calme, hein. Les chiffres pour l'instant sont pas très importants, mais les contaminations repartent à la hausse, c'est nouveau, les passages aux urgences repartent à la hausse aussi, boostés par un nouveau variant qui s'appelle Eris, donc on a un nouveau variant, provoquant forte fièvre, fatigue, courbature, maux de gorge. Si vous avez des symptômes en ce moment, on pense plus au Covid, n'hésitez pas à faire un petit test. Le virus qu'on avait un petit peu oublié, et c'est pas nous qui dirons le contraire, gâche même les vacances de certains. Quelqu'un dans le chat vient de faire référence aux fêtes de Bayonne, et c'est vrai, et c'est juste, le dossier en parle, tu verras. C'est renifleur de paix, il y a eu des gros clusters à l'occasion des fêtes de Bayonne, c'est vrai. Également les festivals, voilà, donc c'est l'une des raisons pour expliquer que le virus circule pas mal en ce moment, le fait que l'été on se croise, on se rassemble beaucoup, exactement. Il y a Afroxis qui dit « J'ai eu tous les symptômes il y a 3 semaines et peut-être que tu n'as pas pensé à te tester Covid, parce qu'on a peut-être un peu perdu ce réflexe. » Voilà, donc on lira ce papier sur le Covid. Rassurez-vous, hein, les chiffres sont pas très très importants, mais les spécialistes, les épidémiologistes interrogés par Le Parisien nous disent attention, c'est peut-être pas pour maintenant que ça va être le plus chaud avec le Covid, il faut toujours avoir un coup d'avance et peut-être qu'à la rentrée ça va repartir, ouais. Moins fort qu'avant, mais que ça peut repartir un petit peu, quoi. Oui, je sais, les pseudos j'adore, Crimson que j'adore. Tiens, ça c'est fou, les chiffres sont totalement impressionnants. C'est la une des Échos, c'est la baisse des achats alimentaire des Français, la baisse de la consommation alimentaire en volume, hein, des Français. Les achats alimentaires des Français ont chuté de plus de 11% en 18 mois, 11% sous le poids de l'inflation. Un tiers des ménages disent réduire leur consommation alimentaire, c'est-à-dire pas acheter seulement moins cher, hein. C'est moins manger. Et vous avez un chiffre de fou, c'est une enquête dans les Échos, plus de 25% des Français, 28% précisément, indiquent régulièrement sauter un repas. Ouais, Exactement. Ça, c'est la conséquence, bien sûr, concrète, directe de l'inflation, de la hausse des prix. C'est fou, quoi. Et donc, il y a des gens aujourd'hui en France qui ne mangent pas forcément à leur faim en raison de la hausse des prix. Voilà. Ça peut sembler loin des préoccupations de certains, peut-être que, qui n'ont pas trop de soucis matériels, mais voilà, ça existe. Donc, on va se pencher là-dessus. Merci aux Échos, très bon journal, de mettre des chiffres très très précis sur ce qui peut être un sentiment, une impression quand on fait ses courses, mais qui est très très réel. Merci aux Échos. Alors, il y a aussi, petite gorgée de caféine, et Sir 22, merci pour le troisième mois d'abonnement, à nouveau. Il y a des papiers très intéressants dans Le Monde et dans La Croix sur le Niger. Bon, le coup d'État au Niger, c'était il y a 15 jours. Ça fait 2 semaines qu'on suit ça, de très très près, avec le coup d'État, les militaires qui donc déposent, virent du pouvoir le président élu, démocratiquement. Les inquiétudes des pays occidentaux présents dans la région comme la France et les États-Unis, notamment dans la lutte contre le djihadisme. Vous avez 1500 militaires français qui sont actuellement toujours positionnés au Niger, plus les forces spéciales. Et puis, les menaces de certains pays de la région, réunis dans la CEDEAO, la communauté économique des pays d'Afrique de l'Ouest, qui disent, attention, ultimatum, si vous ne remettez pas le président élu au pouvoir, intervention militaire, guerre, guerre régionale, guerre au Sahel. Eh bien, il y a du nouveau. Le Monde et La Croix nous disent quoi ce matin? En fait, que, ben, il y a une partie importante de la population du Niger, notamment les jeunes, qui soutiennent les militaires, qui soutiennent les putschistes. Pourquoi ? Bah parce qu'ils estiment que le pouvoir précédent a failli sur plein de trucs. Lutte contre, justement, les djihadistes, lutte contre le chômage, lutte contre la pauvreté et corruption. C'est très, très, très présent dans les accusations des Nigériens rencontrés par les envoyés spéciaux du Monde et de La Croix. Ah bah c'est vachement intéressant et ça change un petit peu notre regard, hein, sur ce sujet. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Niger. Et quand dans le chat, il y a 15 jours, on me disait, mais alors attends, Samuel, explique-nous, c'est un coup d'État militaire contre un président élu démocratiquement, donc contre la démocratie, quelque part, je dis, bah oui, après, c'est ce qui semble, ça semble être le cas. Donc, on voit un truc assez clair, militaire contre démocratie, quoi. Et puis, on se rend compte finalement que vous avez une partie importante de la population qui soutiennent les militaires. Et on se rend compte, au travers des enquêtes, des reportages ce matin là du Monde et de La Croix, eh bien que le pouvoir qui était en place là, il n'est pas blanc 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 blanc, il n'est pas au-dessus de tout soupçon, et notamment sur la question de la corruption. Vachement intéressant. Donc ça, je suis très content de ces dossiers là. On va partager ça ensemble ce matin. Actualité internationale. Toujours régulièrement, je vous fais un petit point sur la guerre en Ukraine parce que elle est à nos portes. Cette guerre, elle se poursuit. Bah c'est comme le Covid, comme c'est installé, bah on en parle de moins en moins. Et le Figaro fait le constat que le front est quasiment gelé, c'est-à-dire malgré cette contre-offensive des forces ukrainiennes qui a commencé il y a 2 mois, eh ben ça bouge quasiment pas. Hein. Les Ukrainiens mobilisent des moyens militaires importants, mais la Russie a énormément renforcé sa ligne de défense et ça ne bouge pas. C'est ce titre du Figaro, la contre-attaque se heurte à la résistance russe. Et la question est de savoir les Occidentaux vont continuer à soutenir l'Ukraine économiquement, militairement, pour appuyer cet effort de guerre long. Voilà. Donc ça, c'est une question qui est posée par le Figaro. Évidemment, cette question, elle est essentielle. Ça aussi, pardon, je vous allez me dire, tu survends l'actu, Sam, tu survends les articles. Non, comme je choisis les articles les plus intéressants selon moi, évidemment, je choisis que les articles qui m'intéressent. Et ça, je trouve ça fou aussi. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu plein d'annonces de départ de grands joueurs de football, notamment européens. Ronaldo, Benzema, N'Golo Kanté, hein, je crois aussi, en Arabie Saoudite. Championnat de foot saoudien, c'est en termes de niveau, c'est pas, tu vises pas la Ligue des Champions, quoi. Voilà. Et donc il y a un gros dossier de Libé là-dessus ce matin sur pourquoi. Alors d'abord, côté Arabie Saoudite, ben c'est du sport washing, hein, c'est pour améliorer l'image du régime du pays, de l'Arabie Saoudite. Voilà. Donc ça, c'est très bien expliqué par Libé. Voilà. Redorer son gazon, il est pas mal de Libé, hein, Queen Amman. Joli pseudo. Et puis du côté des joueurs qui partent, bah, comme le disait Zanonox dans le chat à l'instant, avec plein de dollars. Bon, quels que soient les motifs officiels, bon, quand tu pars jouer au foot en Arabie Saoudite, bon, pour le motif pour le joueur, hein. Et effectivement, Akumadu85 et d'autres, Beto Guartz, merci encore pour le sub de tout à l'heure, vous avez raison, Canal Plus a racheté les droits du championnat de foot saoudien, donc va nous diffuser des matchs, quoi. Voilà. Donc c'est les sous, hein. C'est les sous, bien sûr, les chiffres sont énormes. Donc voilà, au-delà du constat, ben voilà, Libération met des mots, met du sens sur tout ça, c'est pas inintéressant. Et puis je finirai avec l'Humanité sur ce dossier sur l'ubérisation qui entre au musée. Ça peut sembler un petit peu sec, un petit peu technique comme ça, mais en fait non, on est vraiment dans l'humain. Libé nous explique que les guides, les médiateurs dans les musées, donc c'est un rôle essentiel, hein, c'est une espèce de passerelle, de pont entre les visiteurs et l'art, l'histoire de l'art, et un rôle essentiel, et bien ces guides et médiateurs sont de plus en plus, non pas intégrés, embauchés en CDI dans les musées, hein, mais externalisés à des sociétés privées, voilà, et avec à la clé salaire en baisse, protection sociale walou, parce que souvent c'était en mode auto-entrepreneur, donc c'est à toi de te la construire, et puis précarité, quoi. En fait, c'est super, super flippant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui bossent ici dans le secteur de la culture, voire même dans des musées, voire même qui sont guides ou médiateurs culturels. Mais en fait, ce que je découvre dans l'Humanité ici, j'avais déjà vu des articles, mais Luma nous explique ça bien carré avec un gros dossier, et ben c'est hyper inquiétant. Il y a Fanissime qui me dit j'ai plusieurs amis dans ce cas. Gros coup de projecteur de Luma, et je dis merci à Luma sur ce dossier-là. Et vraiment, vous allez voir les conditions de travail de ces gens aujourd'hui, là. Ça va pas du tout, hein. Ça va pas du tout, quoi. Tiens, j'ai oublié d'aller chercher l'horoscope du Parisien. Je vais vous le mettre. On mettra ça à la fin. Et on va le faire en direct. Hop. Ça, c'est le Parisien du jour. Tous les articles que je ne vous ai pas forcément mis de côté. Hop. On se met. Tchouk. Ah, j'ai éteint. C'est pas ça que je voulais faire. Regardez pas mon code. Hein. Et hop, capture d'écran. Tac. Ah, oh, on rogne un petit peu. Toc, toc. C'est l'horoscope de tout à l'heure. On fait OK. Enregistré dans photo, on va dans photo et c'est magique. Après Luma, il y aura l'horoscope du Parisien. Puis une petite page noire que je vais supprimer tout de suite parce que j'ai les doigts pas très agiles quand même. Hop, hop, hop. Voilà les amis, pour le sommaire. On est bien, on est bien, on est sur un bon rythme. Regardez, un rythme d'enfer. 37 minutes de stream, on s'est dit bonjour. On a fait un sondage sur la rentrée là, super important, merci beaucoup. On a fait un sommaire, on est... sur bien sûr il y a Levnec qui dit très sérieusement mais l'horoscope ce n'est pas un peu faire le jeu des pseudo-sciences. Levnec, je pense que tu n'es pas là depuis très longtemps. On dit bien ici que l'horoscope ça n'a aucun sens et aucun fondement scientifique, c'est juste pour se marrer. On a le droit de se marrer, on a le droit de se marrer, hein. Alors, hein, bon, donc on se marre et on dit des conneries et voilà. On sera bien pris la tête avec l'actualité pendant deux heures, donc on a bien le droit de dire des conneries, et puis comme c'est ma signature, des conneries j'en dirai d'autres, hein. Ouais, on est un peu sur un speedrun de l'actu ce matin, je suis d'accord, Naboy. Un 37 minutes, le bonjour, l'intro, le sommaire. Ouais, Clamakin, Samuel, avant de te lancer dans l'actu, j'aimerais que tu nous chantes une chanson de ton répertoire. Non, je ne chante pas, pas en ce moment. Pas en ce moment. Salut David. Allez, je vous lis un petit peu avant de démarrer là. Mais pas de soucis, Levneg. Il n'y a pas de mauvaises questions ici. Il n'y a que des mauvaises réponses. Voilà. Des conneries comme Sean, dit Super Fabre. Sean Connery. Je l'ai. Je valide. Bien sûr que c'est super. El Chipardo dit, hier j'ai découvert le stream de Zach Nani avec toi, Sam. Super intéressant, franchement. Super Zach. J'adore. Et il est venu, il est venu ici d'ailleurs, dans l'hebdo Étienne. Il reviendra, Zach. Salut, Hachou. Un accro au rediff d'étoiles. T'as bien raison, contenu de qualité, qui passe pour la première fois ici. Et j'ai trop hâte. Mais merci d'être avec nous. Bon, tu tombes bien, on vient de finir le sommaire, on va démarrer la revue de presse. J'ai loupé les infos autour du sommet pour l'Amazonie. C'est passé quoi, Gozu? On suit ça. Je t'en parlerai sans doute demain. Le petit bilan là. Ah ouais, le raid d'hier, c'était super. En Titan évoque, vous savez qu'en fin de stream, ici, on raid systématiquement une autre chaîne pour soutenir un streamer, une streameuse. Hier, c'était une streameuse finlandaise, je crois, finlandaise. Sani Ala, qui chante en anglais et qui échange en anglais d'ailleurs avec ses viewers. Et c'est la deuxième fois en deux semaines qu'on la raid parce que bon, je trouve qu'elle a un bel univers, une belle voix. Et c'est vrai que c'est chouette, quoi. En vrai de vrai ou pas? Alors c'est drôle parce que c'est le vrai Moussa ou pas? Je vois dans le chat un salut Samuel, c'est Moussa d'Alerte Info. Alors moi qui suis très présent sur Twitter, qui ai fait une petite blague ces deux derniers jours d'ailleurs avec une petite espèce de démonstration sur la monétisation là, avec des tapines que j'ai enchaînées là. Je vois très bien qui est Moussa d'Alerte Info, puisque Alerte Info c'est ce compte Twitter sur l'actualité qui a beaucoup de succès, voilà, qui toute la journée tweet des infos, voilà, et puis qui est au cœur d'un débat aussi hein, sur le fait que ce sont des infos qui sont prises sur d'autres médias, voilà, avec une éventuelle monétisation au bout, voilà. Et c'est intéressant parce que j'ai vu certains dire bah oui mais c'est une forme de revue de presse finalement et un peu comme ce que tu fais, ce qui est pas faux, voilà. Moi je dis revue de presse quand la source est citée, quoi, voilà. Et après j'ai vu d'autres qui disent bah oui mais non, la source c'est pas si important, quand l'information elle est juste, on n'est pas obligé de je sais pas si c'est le vrai Moussa, mais si c'est le cas je suis ce débat avec beaucoup d'intérêt en tout cas. Ah, je lis encore un ou deux messages et puis on va commencer cette revue de presse. Ah, tu m'as envoyé un petit DM sur Twitter? Ok. Excusez-moi, on échange, on discute. Attends, je vais sur mon compte Twitter. T'as vu comment j'ai tout cassé Twitter là, récemment avec toutes mes bêtises là? Mais je l'ai pas ton DM. Ah si, je l'ai. Donc c'est toi. Donc c'est toi, donc c'est vraiment toi, et ouais, ok, je suis enchanté. Faut qu'on échange, c'est intéressant ce qui se passe autour de ce que tu fais là. Donc puisque, attends, j'explique pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de raconter là sur Twitter. J'ai fait une expérience scientifique et sociale là, de grands mots en fait pour surtout dire que j'ai encore fait n'importe quoi. Il y a deux jours, j'ai vu pas mal de comptes évoquer le début de la monétisation de Twitter, hein, le fait que ça y est, ceux qui allaient en tout cas être beaucoup vus, retweetés, commentés, etc. sur Twitter en France allaient pouvoir toucher des sous de Twitter, donc de Elon Musk, le début de la monétisation. Donc je vois ça, je vois des réactions, des gens qui commencent à publier leur premier chèque en fait, leur premier virement de Twitter, avec parfois des gens qui disent waouh c'est beaucoup, d'autres qui disent finalement c'est que dalle. Et je vois ça, je pense à cette interrogation de savoir si la monétisation sur Twitter va pas dégrader le contenu avec des gens qui vont de plus en plus poster des contenus problématiques, clivants, etc. pour provoquer des réactions. Hein. Bon, ça c'est une des inquiétudes. Et du coup, je décide d'en faire une blague il y a deux jours et puis aussi de tester le truc. Le résultat a été assez étonnant. Je fais un premier tweet qui est celui-ci. Je découvre la monétisation sur X Twitter. Donc, X est le nouveau nom, bien sûr, du réseau social. Ok, c'est parti. Le Mont-Saint-Michel est en Bretagne. Grand classique, grand tap-in, comme on dit sur Twitter. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un tap-in? Un tap-in, c'est un post dont vous savez qu'il va fonctionner a priori, parce qu'en fait, c'est un classique, il a déjà marché 1000 fois sur d'autres comptes. Ouais, ça ne demande aucun boulot. Voilà. Et donc... C'est pas un truc très positif, quoi. Donc, j'en fais un, voilà, sur le Mont-Saint-Michel, voilà, et le truc fait presque 50 000 likes. 50 000 likes et près de 4 millions d'impressions. C'est-à-dire que le truc a été vu à un moment par près de 4 millions de personnes. C'est énorme. Je pense que c'est mon tweet le plus populaire à ce jour. J'en ai fait quelques-uns quand même. Ok ? Donc là, je me dis que merde, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire, parce qu'à la base, c'était une blague. C'était pour un peu dénoncer ce genre de dérive. Ok, j'en fais un deuxième dans la foulée pour sur un classique, la pizza, l'ananas bat toutes les gastronomies du monde. On est toujours dans la blague hein, pour voir ce que ça provoque. Ok, 2 millions d'impressions, 10 000 likes. Ok, je continue avec le fameux d'abord le lait ou les céréales hein, classique, classique. 3,3 millions d'impressions, 10 000 likes. Ok, tant qu'à faire, tout ça sur 2 jours. Hein. Ça, c'est un grec ou un kebab classique. Gros tapine. 3,8 millions d'impressions, 11 000 likes. Voilà. Et pendant ce temps-là, alors les gens qui avaient compris la blague, qui avaient compris ce que je suis en train de faire, et d'autres qui étaient tous en mode premier degré, ou en réagissant au débat sur le Mont-Saint-Michel, les céréales, le grec ou le kebab, ou en disant « Ah là là, t'es vraiment un enfoiré », d'autres mots étaient parfois plus violents, c'est quoi ces gros tapines ? Donc tout ça pour la monétisation. Samuel le vendu, exactement. Donc c'était intéressant. Puis bon, en gros, il y avait trois types de réactions. Un, je participe au débat. Alors ce débat, il a lieu tous les jours sur Twitter, sur plein de comptes. Deux, on a compris la blague, il ne faut pas que ça dure trop longtemps quand même, donc là c'est fini. Et trois, t'es vraiment un enfoiré. Et puis donc je termine hier soir cette séquence test depuis 2 jours, je pense qu'alerte info ça va t'intéresser, Moussa, et je tweete ça. Je viens de faire 10 millions d'impressions en 2 jours, en fait je crois qu'on est à 14 millions. 14 millions d'impressions. J'ai jamais fait ça quoi. 14 même plus si on compte, c'est fou. En reprenant les tapines les plus classiques, je voulais dire les plus éculés, mot un peu littéraire, mais j'avais peur que éculé sur Twitter ça parte tout de suite en sucette. Démonstration que la monétisation de X Twitter va sans doute influer et pas en bien le contenu, c'était un peu là où je voulais en arriver quoi. Voilà. Ah et sinon j'adore mettre des glaçons dans mon vin parce que du coup j'en refais un pour rigoler quoi. Voilà. Et ça fait 1 million d'impressions et ça fait 12 000 likes ce truc quoi. Voilà. Débat. Donc voilà, bon ça c'était pour ce que j'ai fait sur Twitter. Attends, j'y retourne. Et attends, j'y retourne parce que du coup, depuis hier soir, bon j'ai arrêté, on a compris ma démonstration, et donc j'ai refait des tweets normaux quoi. Sur l'actu. Voilà, bah, par exemple, j'ai fait un tweet matin sur est-ce que le Covid est de retour et j'envoie aux Parisiens. Voilà. 153 likes, ça se calme. Hein. Sur les échos, les Français qui serrent la ceinture en matière d'alimentation, 185 likes. Hein. On change. La petite revue de presse express de 5 minutes pour ceux qui n'ont pas le temps, 135 likes. Voilà. La conclusion de ça, c'est quoi ? Bah, je pense que vous l'avez. C'est un peu embêtant quand même. Hein. Et encore, j'ai pas fait le post pain au chocolat chocolatine. Hein. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui marche sur Twitter, c'est des trucs en vrai. C'est pas forcément les meilleurs trucs, quoi. C'est pas forcément les meilleurs contenus, quoi. Voilà. Donc évidemment, moi, je m'arrête là parce qu'il est hors de compte de faire hors de question de faire de mon compte un compte à tapine ou à polémique ou à scandale ou voilà, je suis plutôt pour réunir, rassembler, rapprocher les gens que les diviser. Merci Darmaturge qui a suivi ça et qui a compris la blague hein. C'était une super expérience, ça m'a beaucoup fait rire, c'était un peu l'idée, donc moi j'arrête là, mais c'est un petit peu embêtant quoi. Hein, tout pour le buzz comme dit Dr Freeman, exactement. Salut Hugo. Ah ben non, c'est un autre Hugo, c'est Hugo de, c'est mon partenaire, c'est l'entreprise qui m'a accompagné pour l'émission Simplay. Ah super. Super, parce qu'en soi. Donc j'ai un super partenaire pour l'émission Simplay, deux même, pour que ce soit top. Et là je suis en train de recevoir du matos. Voilà, et j'ai une petite livraison de. Voilà. Voilà, c'est des trucs polarisants qui marchent, exactement. King Cluster. C'est pas une nouvelle, effectivement, Cell Undead, mais c'est une belle démonstration. C'était un petit peu l'idée. Hein. Voilà, le Twitter devient un peu une course aux chiffres, peu importe comment, c'est pas bon, dit Fogvi. Ouais. Un peu embêtant, quoi. Un peu embêtant, quoi. Tiens, Eli Ami me parle de LinkedIn, que moi je connais pas très très bien. Les contenus à forte valeur ajoutée font peu de likes, alors que les contenus juste là pour être drôle sur LinkedIn, sans valeur, font des tas de vues et de likes. C'est un peu ennuyeux, quoi. Nate Lush me dit que c'est pas que sur Twitter hein. C'est comme TikTok, YouTube, chacun va juste copier ce qui marche et on va voir 10 000 fois le même contenu vu revu et inintéressant. C'est ennuyeux, hein. C'est ennuyeux, ça, hein. Ouais, t'es en live, Pexpert. Mais je suis très rapide. Ouais. C'est un peu embêtant. Ouais, c'est pareil sur tous les réseaux, me dit Fanny. Ouais, LinkedIn, ouais, je sais. Je dis LinkedIn parfois. Ouais, je suis désolé. Excusez-moi. Ah, c'est l'âge, ça. Bon, bah voilà, en tout cas, c'était une expérience intéressante. Et merci, Moussa, d'être avec nous. C'est intéressant. Je pense qu'on a des échanges à avoir, ça. Ce que tu fais pour un journaliste comme moi qui fait ce métier depuis 30 ans, assez intriguant. Merci beaucoup, Marie Willy, pour ce 24e mois d'abonnement. Ça veut dire 2 ans que tu me supportes. C'est adorable. Tu me supportes littéralement, d'ailleurs. Hein. Avec mon humour pourri. Béné 85 420, merci pour l'abonnement offert à la commu, c'est adorable. C'est parti, on y est. Let's go. Alors, bon, on va commencer par une actu que j'aurais aimé ne pas vous raconter. Voilà, c'est cette actu dramatique dont on a déjà parlé hier matin, puisque vous avez été plusieurs à m'informer, à m'alerter hier en cours de stream sur cet incendie dramatique. Ça s'est passé en Alsace, ça s'est passé sur la commune de Winsenheim. Hein, c'est l'incendie dans un gîte qui accueillait pour des vacances des adultes en situation de handicap mental léger et leurs accompagnateurs. 11 morts, bilan dramatique. 11 morts, 10 adultes en situation de handicap et... merci David pour l'info, je vais aller vérifier ça. Et un accompagnateur qui est mort. C'est à la une du Parisien, c'est à la une de Libération, beaucoup d'émotions, beaucoup de questions. À l'instant, dans le chat, David m'a dit qu'il y a une info qui vient de tomber comme quoi le gîte n'était pas aux normes en matière de sécurité. C'est une info qu'on va aller vérifier. On va essayer de trouver une source de qualité pour nous le dire. Je vais remercier le dernier sub dans un instant, mais je préfère aller sur cette actu d'abord. Tragédie au gîte. Voilà. Moi, je pense qu'il faut avoir ce matin une pensée pour toutes ces victimes et tous leurs proches. Voilà. Merci pour les F que je vois dans le chat. L'incendie, écrit Le Parisien donc ce matin, s'est attaqué aux plus faibles. Des adultes handicapés, déficients mentaux, originaires du Doubs et de Meurthe-et-Moselle, au moment où ils étaient le plus vulnérables, encore plongés dans leur sommeil. 10 d'entre eux et l'un de leurs accompagnateurs ont péri aux premières lueurs de l'aube, surpris par la rapidité et la violence des flammes qui ont ravagé en quelques minutes le gîte en bois qui les abritait depuis samedi et normalement pour 2 semaines de vacances. Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier en France. Depuis 2016, vous vous souvenez de ce drame du Cuba Libre, c'était un bar de Rouen en Seine-Maritime où 14 personnes avaient perdu la vie au cours d'une soirée d'anniversaire dans un sous-sol. Et l'enquête avait montré, c'est là où l'enquête ici sera importante aussi, l'enquête avait montré que en fait, bien ce sous-sol n'était absolument pas aux normes de sécurité. Et en fait, c'était des jeunes hein, qui avaient trouvé la mort dans des conditions horribles. Quoi. Donc c'est le bilan le plus lourd depuis ce drame de Rouen. À Winsenheim, le scénario du drame implacable semble se dérouler sur un temps très très court, c'est aller très très vite. Alerté à 6h33 par un appel au secours de la propriétaire qui était sur place, les premiers pompiers arrivent un quart d'heure plus tard, ils arrivent très très vite. Grâce à d'importants moyens humains et matériels, l'incendie est très vite maîtrisé, mais il était trop tard. Si les 12 personnes qui dormaient au rez-de-chaussée ont réussi à quitter le bâtiment sans trop de difficultés, la plupart des 16 autres occupants installés au premier étage et dans la mezzanine sont restés prisonniers des flammes. 16 personnes qui étaient au premier étage, 11 morts sur les 16. Une première esquisse de scénario apparaît, donc on est au tout début de l'enquête, hein, c'est la procureure de la République, la procureure adjointe de Colmar qui le dit. Le feu aurait couvé sans doute pendant quelques heures, probablement au rez-de-chaussée, avant de s'embraser totalement et d'atteindre ensuite la structure du bâtiment. Voilà ce qu'on sait pour l'instant. On va aller voir cette info dans un instant si c'est vérifié, s'il y a des problèmes de normes de sécurité. Des relevés en tout cas ont été effectués. Pour comprendre si le feu est d'origine accidentelle ou criminelle, parce qu'il ne faut pas écarter cette piste, bien sûr, s'il s'est nourri d'un accélérateur qui aurait donné de la vigueur aux flammes. Pour l'instant, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse du geste criminel. Il reste toutefois de nombreuses zones d'ombre à éclairer, écrit ce matin Le Parisien, sur les conditions d'hébergement de ce groupe de 25 adultes handicapés encadrés cette nuit-là par trois animateurs. Une question notamment reste en suspens au sujet de la capacité d'accueil de ce gîte. Est-ce qu'il pouvait y avoir autant de gens ? Hein. Peut-être qu'on a déjà des infos ce matin, on va aller voir. Voilà. C'est aussi la une de Libération, hein. Incendie à Winsenheim. Donc c'est avec Libération, on aime bien faire les jeux de mots. Là, il y a zéro jeu de mots, bien sûr, on peut pas, quoi. Émotion. Libération rappelle, et je crois que Libération a raison, que il y a le temps de l'enquête, mais il y a le temps de l'émotion. Et je pense qu'il faut penser à ces gens ce matin et à leurs proches. Émotion. Alexandra Schwarzbord écrit ce matin, l'émotion soulevée par ce drame est d'autant plus forte que ces victimes sont dans leur grande majorité de jeunes adultes en situation de handicap, donc plus vulnérables. Il va falloir déterminer très vite, écrit Libé, si toutes les normes de sécurité et d'encadrement ont été respectées. Et ce matin, donc David tout à l'heure me disait, alors en me citant une source, on parle souvent des sources ici, hein, quelle est la fiabilité d'une source d'information. David me citait une source à propos de cette information, comme quoi il y avait un problème de critères de sécurité qui n'auraient pas respecté, qui n'est pas une source très très fiable pour moi sur un site d'information qui n'est pas parmi ceux auprès desquels je m'informe. Donc on va aller regarder. Voilà. Si on a des sources un peu plus carrées, donc on va taper Winsenheim ou Alsace, et on va voir si Le Monde, si France Info, si Le Figaro, si la presse en région, le journal de l'Alsace, comme dit Flo Flobo, nous donne des informations là-dessus. Ok, c'est parti. Un crible actualité sur Google, voilà, on trie par date pour avoir les dernières, et on a effectivement RTL par exemple qui cite source la vice-procureure de Colmar, rédaction de RTL, c'est une rédaction rigoureuse, selon la vice-procureure, le gîte n'était pas aux normes. Voilà. La Dépêche, journal régional, nous donne cette info aussi. Le Parisien, sur son site internet, nous donne également cette info, le gîte n'était pas aux normes. Ça, c'est ennuyeux. Allons voir cet article de RTL. Donc, c'est une déclaration ce jeudi, donc ce matin, de la vice-procureure de la République de Colmar. Donc, le bâtiment n'était pas aux normes. Que dit-elle ? Le gîte n'avait pas subi le passage de la commission de sécurité qui est obligatoire et ne disposait pas des caractéristiques pour accueillir du public. Aïe, aïe, aïe. Plus d'informations à venir sur RTL. Donc là, on est quand même aux prémices d'un scandale. On n'a pas beaucoup d'infos. A priori, on n'a que la déclaration de la procureure qui est un petit peu... Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. Ah, à la base, c'est une avance... Regarde. Ah, c'est intéressant parce que Le Parisien nous dit qu'à l'info, à la base, c'est une info de France Bleu Alsace. Donc, on va voir France Bleu Alsace, source de qualité, qui nous redonne ces infos. Selon les éléments indiqués à France Bleu Alsace par la vice-procureure de Colmar. Vous voyez, bon, là, c'est intéressant de voir aussi la question des sources. Un média sérieux, ce matin, qui donne cette info, il doit faire ce que fait ici, on revient en arrière, Le Parisien. C'est-à-dire que Le Parisien donne une info et dit, ok, c'est pas nous qui l'avons sorti, c'est France Bleu Alsace, c'est nos confrères de France Bleu Alsace. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, on source ceux qui ont fait le travail. Hein, on ne dit pas, c'est nous qui avons l'info, c'est nous les plus forts. Ce sont nos collègues de France Bleu Alsace. Et si France Bleu Alsace s'est trompé dans l'information, ça permet aussi, pour ici Le Parisien, de se prémunir, se garantir d'une éventuelle erreur. Hein. Sinon, Le Parisien devient complice de l'erreur aussi. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc a priori ici c'est France Bleu Alsace qui sort l'info, puisque en fait France Bleu Alsace a eu l'info auprès de la vice-procureure de Colmar. Donc ce gîte, ce grand bâtiment à colombage récemment rénové, n'était pas aux normes de sécurité. Le dossier concernant cette ancienne grange de 500 mètres carrés n'était pas passé devant la commission de sécurité dédiée aux établissements recevant du public. C'est très ennuyeux. L'établissement hébergeait 28 personnes au moment du drame. Waouh, c'est très ennuyeux. Voilà. Parce que là, ça veut dire qu'il y a eu une négligence, quoi. Voilà. Alors, voilà. Évidemment, ce sont des visites très contraignante hein, pour les lieux accueillant du public hein, et le passage de ces commissions de sécurité, mais pas contraignante pour rien. Hein. La preuve, quoi. Là, je vous lis un petit peu sur ce sujet, et puis on va ensuite partir sur le Covid. Voilà, je vous remets la une de Libération, tenez, ou du Parisien, voilà, piégé par le feu. Puis ben Camille me dit, je fais toujours ça dans mes lectures d'articles, je regarde toujours la source initiale. Très bon réflexe. Alors comme le dit Anonyme 31, il est aussi important de savoir quelles normes ne sont pas respectées. Certaines ne sont peut-être pas en lien avec l'incendie. Oui, peut-être. Mais à part... déjà, on apprend que la commission de sécurité n'était pas passée. C'est problématique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait même pas eu de contrôle. Sean XO dit, mais ça change quoi de savoir que le gîte accueillait plus de personnes que prévu ? Eh bien, justement, en cas d'incendie. Un lieu peut avoir une autorisation pour accueillir tant de personnes pour permettre justement, en cas de problème, une évacuation facile hein, des lieux. Alors, il y a le nombre de personnes sur place. Vous savez, un lieu public est censé pouvoir accueillir un certain nombre de personnes et pas plus, justement, en cas de problème, pour pouvoir garantir une évacuation des gens dans de bonnes conditions. Après, il y a les questions des issues de secours, de la signalisation des issues de secours, etc. etc. Si aucune commission de sécurité est passée sur ce bâtiment, c'est gravissime. 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 Je remercie Carlsborg et MonQ742 pour les deux subs. Je ne vous ai pas lu tout à l'heure volontairement parce que j'étais au début de mon sujet. Mais merci de votre soutien à tous les deux. Alors, Nino Zeko dit, qui sont les amateurs dans cette histoire ? Le loueur ou la structure qui accompagne les handicapés ? Les deux associations qui accompagnaient, parce qu'il y avait deux associations en provenance de deux régions. Les personnes en situation de handicap sont-elles responsables ? Pouvaient-elles savoir que le gîte n'était pas aux normes ? Question, j'ai pas la réponse. D'après ce que j'ai lu dans la presse ce matin, cela faisait des années, disent certains, que le gîte accueillait des gens, notamment en situation de handicap, et que tout s'était toujours très bien passé. Donc peut-être que certaines des associations pensaient qu'il y avait zéro problème avec ce gîte qui était aux normes, hein, peut-être. Peut-être qu'ils ne se sont pas posé la question. Peut-être qu'ils auraient dû se la poser. Mais le premier responsable, s'il y a un problème au niveau des conditions de sécurité, pardon, c'est le propriétaire du gîte, bien sûr. Merci Garzaf pour le gentil message. Esprit me donne une info que je n'ai pas trouvée, mais que je trouve intéressante à vérifier en termes de problème de surcapacité. 28 personnes étaient présentes dans le gîte au moment du drame pour 16 couchages. Là, c'est gravissime. C'est ce qu'indiquerait la vice-procureure. Je mets un conditionnel parce que je n'ai pas trouvé l'info moi-même. Mais si c'est le cas, si on se rend compte qu'il y a un problème d'agrément de sécurité qui n'a pas été donné, que la commission de sécurité n'a pas pu passer et pas passé, que le gîte n'était pas habilité à recevoir des personnes en situation de handicap, ou même pire, qu'il y avait 28 personnes présentes pour 16 seulement autorisées, c'est gravissime, c'est gravissime. Je vous lis encore un peu. Bon, maintenant, on va laisser faire les enquêteurs. Hein. Mage Givre, tu poses la question. Bonjour et pardon si je choque, tu choques pas. Mais l'incendie, est-ce que l'incendie soulève un débat intéressant ou est-ce qu'il s'agit seulement d'un fait divers qui ne mérite pas la médiation nationale ? On vient de dire... Dans un pays développé, dans un pays riche comme la France, on est d'accord que c'est pas normal de mourir dans l'incendie dans un bâtiment où tu passes des vacances. On est d'accord ? Il y a des lois, il y a des règles, il y a des cadres pour que les bâtiments accueillant du public respectent des normes de sécurité pour éviter ce genre d'accident. Donc on n'est pas sur un fait divers. On est sur un fait divers qui pose question de société. Voilà. Donc évidemment, on vient de rappeler aussi que ça faisait des années depuis la catastrophe de Rouen au bar Cuba Libre qu'il n'y avait pas eu un drame avec un bilan aussi lourd dans un incendie, dans un bâtiment accueillant du public. Pourquoi ? Parce que justement, il y a des normes de sécurité hein, qui sont respectées. Donc oui, bien sûr qu'on n'est pas sur simplement un fait divers sur l'émotion, même si je pense qu'il faut avoir de l'émotion pour penser aux gens, à ces 11 personnes qui ont trouvé la mort dans des conditions dramatiques. Parce qu'une des questions qui se pose ici, que je n'ai pas évoquée, mais est-ce que ces gens sont morts par asphyxie dans leur sommeil ? Pardon d'en parler, mais est-ce qu'ils sont morts brûlés vifs d'après les témoignages de riverains qui ont entendu des cris de fous. C'est peut-être la deuxième hypothèse. Vous vous rendez compte ? Donc non, bien sûr qu'on est au-delà du fait divers, quoi. Donc il y a une émotion pour penser à ces gens, à ces victimes, à leurs familles. Et puis après, il y a la question de comment faire pour que cela ne se reproduise pas. En fait, le débat qui nous intéresse ici, c'est ça. Hein, vous voyez ? Donc oui, il faut en parler. Moi, je ne suis pas, vous savez, hein, les habitués de cette revue de presse le savent, moi, je ne suis pas très fait divers. Les agressions, les crimes, les trucs, voilà. L'émotion. En revanche, c'est dit fait divers, l'expression n'est pas très jolie, d'ailleurs, fait divers, c'est pas très joli, hein. Mais c'est comme ça qu'on dit. Ces faits divers, ils sont importants de les évoquer quand ils nous permettent de nous interroger sur notre pays, notre société et éventuellement une manière d'arranger les choses. Là, si on se rend compte, par exemple, que des normes de sécurité n'ont pas été respectées, eh bien, ça rappellera à tous qu'effectivement, c'est impératif et qu'il faut des contrôles, qu'il faut des visites et que les propriétaires de ce type de lieu doivent absolument respecter la loi, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour des infos que nous avions ce matin sur ce sujet. Voilà, il y a Nice34 qui connaît bien le sujet, qui nous dit « J'ai été directrice de séjour de vacances pour personnes en situation de handicap. Je vous assure que cet événement est très grave, j'en ai conscience. Je n'ose pas imaginer la tristesse, le traumatisme des victimes, équipe encadrante inclus, bien sûr. Parce qu'il faut imaginer aussi le traumatisme, on n'a pas évoqué, des survivants. Des encadrants, des associations et des familles. Ah, Esprit nous précise, vous voyez la question de la source, l'information d'Esprit tout à l'heure c'était la propriétaire, le lieu était ok pour accueillir 16 personnes et qu'il y en avait 28. Esprit est allé un petit peu chercher les infos et nous donne les sources, donc c'était pas la procureure. Dont acte, effectivement, j'avais pas vu cette info. C'est le magazine Le Point qui cite le maire adjoint de la ville, qui déclare que la propriétaire avait signé un contrat pour 16 personnes et que 28 personnes se trouvaient dans le bâtiment selon la préfecture. Voilà. On est quand même sur un énorme problème là. Voilà. Bon, je pense qu'il était important d'en parler ce matin. Il y a Mouet qui dit qu'il fait des plans de sécurité incendie et il nous explique qu'en France, beaucoup de magasins, de bureaux et autres lieux recevant du public ne sont pas aux normes. Ne sont pas aux normes. Bon, maintenant, laissons faire l'enquête, on va y revenir dans les prochains jours. Mais c'était important d'en parler. Alors, également à la une du Parisien, vous le voyez, le Covid, mauvaise surprise des vacances, donc je reviens à la une du Parisien sur le Covid. Un retour, il n'était pas parti le Covid, hein. C'est juste que beaucoup moins de contaminations, beaucoup moins d'hospitalisations, donc on en parlait quasiment plus hein, dans les médias, quasiment disparu. On en reparle un petit peu ce matin parce que, effectivement, même s'il n'est jamais parti, il est un peu plus de retour, mauvaise surprise des vacances. C'est l'invité surprise de l'été, nous dit le Parisien. Ce matin. Pourquoi ? Bah, les contaminations repartent à la hausse, les passages aux urgences repassent à la hausse, même si les chiffres sont assez réduits quand même, hein, ne vous inquiétez pas trop, boosté par un nouveau variant. Comment il s'appelle ? Le nouveau variant, il s'appelle Eris. Il provoque, si jamais dans les prochains jours, vous ou des proches avez des symptômes, de fortes fièvres, de la fatigue, courbature. Bon, ben, pensez pas forcément à un coup de fatigue ou à une grippe, testez-vous. Le virus qu'on avait un petit peu oublié gâche même les vacances de certains. Voilà, Isma nous dit, ma copine l'a eu la semaine dernière, fatiguée mais sans gravité, donc ça circule à nouveau. Article de Florence Méréo dans le Parisien. Il lui faut racler un peu la gorge, tousser et prendre une aspiration avant de répondre, ça commence à aller mieux, lâche d'une voix éraillée. Gaëtan, à son cinquième jour de Covid, c'est quelqu'un qui a été touché il y a quelques jours, les trois premiers, la quadragénaire est restée au lit, 39 degrés de fièvre, barre sur le front, frisson dans le corps, fatigue carabinée. Bon, c'est les symptômes du Covid, quoi. Alors, elle a vécu ce qu'on a tous vécu il y a quelque temps, repas pris à l'écart, désinfection méthodique de la chambre, masque sur le nez, les retrouvailles familiales tant attendues dans la maison des parents en Charente-Maritime se sont terminées au rythme d'un coronavirus qu'on n'avait plus l'habitude de suivre. Oublier le Covid, hein, pensaient certains, derrière nous, pensions-nous, à tort, écrit ce matin le Parisien. Alors que les vacances battent leur plein, le virus vient jouer les rabat-joie aux fêtes de Bayonne, on va commencer par ça, qui ont rassemblé début août 1,3 million de personnes. Une flambée de cas a succédé aux festivités. On vendait énormément d'autotests, confirme une pharmacienne, qui tous ou presque revenaient positifs. Le Covid ne se cantonne pas au Pays Basque. On retrouve ici et là, à la faveur des férias, des concerts, des mariages et d'autres événements fédérateurs, eh bien des cas. Ce mercredi, donc hier, la maladie a fait son grand retour dans la liste des 10 diagnostics les plus fréquents chez SOS Médecins. Il se passe bien quelque chose. Hein. Pourquoi maintenant ? Alors le Parisien explique, l'été est propice au rassemblement, le virus circule avec les hommes et il profite, ce virus, des chassés croisés, des brassages de population pour passer d'un organisme à l'autre, et aussi parce qu'il est boosté par un nouveau variant, donc EG5.1, surnommé aussi Eris, sous-variant d'Omicron, qui s'impose en France, aux États-Unis actuellement, mais aussi en Asie. Il est soupçonné d'être plus contagieux que ses prédécesseurs. Il pourrait favoriser la prolifération des cas. Ce mercredi, le dernier bulletin de Santé publique France pointe une nouvelle hausse des passages aux urgences pour suspicion de Covid. On est sur du plus de 110% par exemple dans les pays de la Loire, 71% en Normandie. Alors c'est des pourcentages qui semblent très impressionnants. En fait, si on regarde les chiffres, c'est pas tant que ça. Par exemple, Pays de la Loire, ça fait 21 passages supplémentaires aux urgences, seulement 15 pour la Normandie. Pour l'instant, le signal hospitalier est très faible, hein. Voilà, donc on part d'une situation où le virus circulait très très peu, avec très peu d'hospitalisation. Voilà, ça repart à la hausse. Donc en pourcentage, c'est très très fort, mais comme on part de chiffres très très bas, ça fait pas beaucoup, quoi. Voilà. Mais le Parisien constate que ici et là, le masque refait son apparition dans, de façon discrète, dans les foules, dans les transports. La parole à un épidémiologiste, un universitaire, interrogé par le Parisien, qui s'appelle Mircea Sofonea. Oui, il y a reprise économique. Bren Washer nous dit plus de 110% basé sur quoi ? C'est bien beau les chiffres, mais on peut leur faire dire n'importe quoi. Je viens de répondre à cette question. C'est plus de 110% par rapport à que dalle. Donc c'est pas beaucoup pour l'instant, hein. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il ne faut pas s'y intéresser, c'est ce que nous dit ce scientifique. La situation festival est difficile à cerner, car la surveillance mise en place par les autorités est dégradée. Cet épidémiologiste, il nous dit, attention, parce que on n'a pas trop le chiffre pour l'instant, mais il faut dire aussi que l'instrument de mesure, le thermomètre, la surveillance mise en place par les autorités, elle s'est très dégradée. Hein. On surveille, on comptabilise beaucoup moins qu'au plus fort de la crise. Donc on sait que le virus circule, qu'il y a des poches de contamination, mais il est impossible avec les moyens actuels, dit ce scientifique, de connaître son ampleur et donc de éventuellement se projeter. Mais les rares éléments objectifs dont nous disposons, dit-il, font qu'on peut dire oui, il y a une reprise épidémique. Comment l'expliquer ? Il répond par l'alliance de trois aspects. Déjà le déclin immunitaire, hein, en clair l'efficacité du vaccin qui ou d'une contamination passée qui s'étiole avec le temps et donc qui protège moins bien. Bon, ça c'est du classique. Ensuite par l'évolution virale avec les nouvelles mutations comme le nouveau variant qu'on vient d'évoquer. Enfin le contexte estival propice à la diffusion du virus avec des événements de grande promiscuité. Le Parisien fait remarquer que les hôpitaux ne sont pas débordés actuellement, et il répond, c'est un constat qui est vrai aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas débordés, mais le coronavirus nous a appris qu'il ne fallait surtout pas le regarder de façon immédiate, qu'il fallait plutôt se projeter à l'automne prochain. S'il continue de gagner du terrain et que des épidémies de grippe et de bronchiolite s'ajoutent, eh bien la répercussion sur les centres hospitaliers sera alors beaucoup plus réelle. Que faire ? Est-ce qu'il faut s'alarmer, s'inquiéter, remettre le masque, que sais-je ? Est-ce qu'il faut dire à la population de refaire attention? Réponse du scientifique. Avec parcimonie, tranquille, hein, ne nous inquiétons pas trop. Des messages trop restrictifs ne seraient pas audibles aujourd'hui. L'enjeu est dans les coulisses. Il faut réinstaurer un système de surveillance plus réactif. Donc voilà. Il ne s'agit pas de s'alarmer, de s'inquiéter, nous dit ce scientifique. Mais du côté des pouvoirs publics, peut-être qu'il faudrait remettre en place des instruments de mesure de ce qui est en train de se passer pour prévenir une éventuelle résurgence de l'épidémie de forte à l'automne prochain. Voilà, pas mal ce dossier du Parisien, quoi. Qui nous informe sans nous inquiéter, nous alerter, quoi. Trop. Allez, je vous lis un petit peu. Doc Scorpio, qui manifestement est un soignant, nous dit on en a de nouveau chez des patients hospitalisés aux urgences, qui sont pas forcément hospitalisés pour ça d'ailleurs, mais pas de forme aussi grave que lors de la première vague. Merci à toi. Je vous lis. Merci, Bouane, moi, cher, j'ai vu ton message. Merci à toi. Aucun souci. Sandrine travaille en Nouvelle-Aquitaine et constate que dans les établissements de santé, eh bien, on a remis le masque. Je vous lis. Je trouve bien fait cet article, moi. Je ne trouve pas... angoissant, quoi. Juste, il nous informe, quoi. Jolnir, un grand merci pour ce... Waouh, ça s'applaudit, ça. Deuxième année d'abonnement, 24 mois, merci beaucoup. Fanny Schneider a constaté que dans le métro parisien, le masque était de retour depuis quelque temps. C'est vrai que dans la rue à Paris, j'ai vu des gens, là, plus qu'avant, avec le masque. Pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Que les politiques arrêtent de saccager l'hôpital public, ce serait un premier pas en avant de nous demander de faire gaffe, estime Tal Blaise. Tiens, Feido a une amie qui l'a en ce moment, le Covid, pour la quatrième fois. Merci. Ça, alors. Il y a PQ Blinders, ça c'est un joli pseudo qui dit « Salut Sam, je découvre ta chaîne ce jour. » Oui, je sais, ça fait un peu boomer de dire ça, pas du tout. Mais c'est une superbe découverte, keep going. Alors ça me fait bien plaisir, merci beaucoup. Framboise, je ne suis pas médecin, mais je te lis quand même. J'ai mal à la gorge sans pouvoir parler, le nez qui coule. Je pensais angine, mais possiblement le nouveau variant. Je ne suis pas médecin, mais fais un test peut-être. Voilà, 47 Alexia confirme. On a eu le Covid à la maison il y a quelques semaines. On l'a filé aux copains, sans le savoir, je suppose. Hein. Sinon, c'est voilà les copains. En leur faisant la bise, en extérieur en plus, donc très contagieux, a priori, ce nouveau variant. Comment il s'appelle déjà ? Eris. Voilà. Ok. Bon, je pense que c'était bien de parler de cette info aussi ce matin. Ouais. Donc très contagieux, même en extérieur, c'est ce que nous dit Alexia. Ok. Un dernier message de Dubman Irie. Comment vas-tu? Une copine bosse dans un labo dans le sud-ouest. Tous les tests effectués sont positifs. Bon, ça nous fait dire quoi, ça? Ça nous fait dire que, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de ce dossier, que si on a des symptômes un peu bizarres dans les prochains jours, on se teste. A priori, ça ne va pas nous, hein, ça va pas nous emmener à l'hôpital. A priori, ça va peut-être nous sécher un petit peu de 3 jours, mais surtout, ça nous évitera de contaminer les autres en se promenant avec c'est Eris, c'est ça ? Et le filet, voilà. Hein, voilà. Petit conseil qui me semble de bon aloi. Tiens, bonne question. Queen Amman dit les tests sont plus remboursés. Il y a Framboise qui dit c'est toujours gratuit les tests en pharmacie. Tiens, bonne question ça. Non, on va faire une pause. Tiens, bonne question. C'est plus remboursé les tests? Je ne sais pas. Remboursement. C'est 16 balles. Nom de Dieu. Remboursement. Ça c'est une bonne question ça. C'est fini? Chemical What the Fuck dit j'en ai fait un il y a 3 mois, j'ai rien payé. Bon, vous êtes pas sûr. Je vais aller voir, je vais aller voir. Actualité. Gouvernement.fr, c'est une bonne source. Fin de la prise en charge à 100% des tests de dépistage. Depuis le 1er mars, on, va la, on cherche une source. Bon, là, le site du gouvernement, ça me semble une bonne source sur cette question en tout cas. Depuis le 1er mars, l'assurance maladie prend en charge une partie des frais liés aux tests de dépistage de tous ses assurés sans prescription. Une partie. Donc, c'est plus 100%. L'amélioration de la situation sanitaire en France donc, permet de mettre fin à la prise en charge à 100% des tests de dépistage au profit d'un remboursement partiel, sauf pour certaines populations. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est illisible, comme toujours, les trucs. Quoi ? C'est illisible. Donc en fait, t'as un reste. D'après ce que je comprends, t'as un reste à charge. T'as un reste à charge. Voilà. Donc si c'est un médecin, un pharmacien, un chirurgien dentiste ou une sage-femme qui te fait le test, t'as un reste à charge pour l'assurer, donc sécu, de 30%. Non, c'est l'inverse d'ailleurs. Attends, c'est le remboursement ou c'est le reste à charge ? Donc, d'après ce que je comprends, c'est le reste à charge. Ce qui reste à payer, c'est 30% du test. Ouais, c'est logique. Et le reste à charge, si c'est un kiné ou si c'est un infirmier qui te fait le truc, c'est 40%. Ok. Le site gouvernemental dit que pour la grande majorité des assurés qui disposent d'une couverture complémentaire, comprenez une mutuelle, eh bien, normalement, le reste est pris en charge par la mutuelle. Voilà. Il y a des exceptions où c'est toujours remboursé à 100%. Putain, faut le comprendre, le truc. Hein. Les patients en affection longue durée, 100%. Les personnes de 65 ans et plus, j'y suis bientôt, 100%. Les mineurs, donc les moins de 18 ans, 100%. Les professionnels du secteur médical, 100%. Les femmes enceintes, 100%. Les personnes faisant l'objet d'un dépistage collectif, 100%. Ok. Ouais. Donc c'est remboursé partiellement par la Sécu et normalement 100% avec la mutuelle, quand t'as une mutuelle. Voilà. Ok. Bon, ben, bonne question dans le chat. Je sais plus qui l'a posé, mais très bonne question. On a la réponse. Voilà. C'était. Pour, deux remarques là-dessus. Le gouvernement explique que c'est parce que bon, il y a eu une baisse quand même de l'épidémie en France, voilà. Et puis c'est en raison du coût aussi, hein. Du coût pour la collectivité, parce que quand on dit c'est gratuit, c'est remboursé, non, évidemment, hein. C'est payé par l'argent public et donc ça a coûté un fric de dingue. Alors je dis pas que c'était qu'il fallait pas le faire, hein. C'est très très bien, hein, que c'était fait, mais ça coûtait un fric de dingue et donc c'était aussi pour réduire la dépense, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est remboursé que partiellement aujourd'hui. Ça c'est un truc vachement important. Les Échos, très bon journal, voilà, qui peut sembler comme ça un peu rébarbatif, hein. Comme je dis souvent, vous êtes à la gare Montparnasse, vous vous apprêtez à prendre un train, vous avez un petit peu d'avance, vous allez dans le kiosque et puis vous regardez les unes et vous n'allez pas forcément vous précipiter sur les Échos, hein, l'actualité économique et financière. Eh ben si. Précipitez-vous sur les Échos, c'est un très bon journal, parce que l'économie c'est partout, c'est dans l'art, c'est dans votre vie au quotidien, c'est dans l'alimentation, on va en parler, c'est un journal de qualité, voilà, et gavé de super articles, voilà. Ici c'est le cas, alimentation, pourquoi les Français décrochent, les Échos qui nous expliquent, chiffres à l'appui, que l'inflation, la hausse des prix, a des conséquences très concrètes sur l'alimentation des Français, avec des Français, certains, qui mangent moins, achètent moins de nourriture, et parfois même sautent des repas, voilà, en raison de la hausse des prix. Voilà, merci les Échos. Adrien, merci beaucoup pour le 23e mois d'abonnement. On y est bientôt aux 2 ans. Pourquoi les Français décrochent en matière d'alimentation ? Les achats, c'est très précis. Les achats en volume, hein, ont chuté de plus de 11% en 18 mois sous le point de l'inflation. C'est-à-dire que dans les caddies, quand on fait ses courses, il y a 11% de trucs en moins, en volume. Un tiers des ménages disent limiter leur consommation, et vous avez un chiffre aussi sur les gens qui sautent un repas en France qui est assez hallucinant. C'est parti. On va lire l'édito d'abord. Puis après, on fera un sondage là-dessus. Vous me direz comment vous comportez, vous, si vous mangez moins, vous aussi, en raison de la hausse des prix. Quoi. Mangez moins, regardez, c'est le titre de l'édito des Échos, je ne l'ai pas fait exprès. De mémoire d'épicier, on n'avait jamais vu ça. Jamais autant de Français n'ont sauté de repas. Bon, alors jamais, en fait, c'est depuis qu'on a les chiffres de l'INSEE. Je vous dirai tout à l'heure la date, mais c'est pas depuis la nuit des temps, vous en doutez bien. Depuis presque 2 ans, la hausse des prix les a en effet poussés à adapter leur consommation alimentaire de façon de plus en plus radicale. Dans un contexte d'inflation généralisée, les ménages ont commencé par baisser en gamme. Quand les prix ont monté, les ménages ont commencé d'abord par acheter des produits moins chers, hein, des marques moins chères. C'est la première réaction. Les ventes de bio, par exemple, on a vu que les ventes de bio ont beaucoup baissé pendant ces mois d'inflation parce qu'ils étaient plus chers. Certains sont ensuite passés de la viande rouge aux viandes blanches et aux œufs, source de protéines moins chères. Ensuite, ils ont acheté de moins de grandes marques multinationales pour privilégier les marques de distributeurs moins chères. Voilà. Mais désormais, on joue plus sur ce qu'on achète, on achète moins. Désormais, de plus en plus tôt dans le mois, les géants de la distribution le constatent, les Français n'achètent pas seulement autre chose, ils achètent nettement moins et certains n'achètent plus. La grande distribution, miroir de la France, l'image qu'elle reflète actuellement a de quoi nous inquiéter, c'est le Parisien. Je lis vos réactions, c'est intéressant dans un instant, mais d'abord je vous lis l'article, page 12 dans les Échos. Donc c'est une chute sans précédent des achats alimentaires des Français. Alors sans précédent, vous doutez bien qu'il y a des époques où les Français ont moins mangé qu'en 2023, hein, on est d'accord, hein, dans l'histoire de France, on est bien d'accord, donc... C'est pas depuis, voilà, c'est depuis 1980. Quand même. Je zoome. Entre le dernier trimestre de 2021 et le deuxième trimestre 2023, les achats alimentaires des Français ont donc diminué de plus de 11% en volume selon l'INSEE, c'est la source. Cette chute de la consommation alimentaire n'a aucun précédent dans les données compilées par l'INSEE depuis 1980. On n'a jamais eu une telle baisse de la consommation alimentaire depuis 1980. C'est ouf. Nos ventes reculent fortement en volume de plus en plus tôt dans le mois, signe que les Français se serrent la ceinture en attendant leur jour de paie. Il y a des ménages qui sautent de plus en plus de repas, analyse le patron d'un géant de la grande distribution. Dans un sondage IFOP de juin dernier, un gros quart des personnes interrogées, 28%, indiquaient même sauter un repas régulièrement. Le gouvernement surveille le sujet comme le lait sur le feu, tu m'étonnes, c'est explosif. Mais les solutions pour contenir l'inflation alimentaire ne sont pas évidentes, parce que là, on fait un constat. Comment on fait en cette période d'inflation pour éventuellement baisser les prix de l'alimentaire? C'est quand même essentiel pour que les gens puissent manger, quoi. Et les Échos disent, c'est un peu compliqué. Promise à maintes reprises, la création au niveau national d'un chèque alimentaire destiné aux plus modestes a été abandonnée. La création d'un panier anti-inflation, vous vous rappelez de ça? Commun à l'ensemble des distributeurs imaginé par l'exécutif, le gouvernement voulait lancer un panier anti-inflation avec des produits pas trop chers. Elle a fait long feu, c'est-à-dire que ça a été abandonné. Alors que les cours de certaines matières premières agricoles ont entamé un petit reflux, Bercy compte désormais sur les industriels pour répercuter ce repli et faire profiter le consommateur. C'est bien d'espérer, mais bon. Pour l'instant, seuls quelques fabricants ont joué le jeu, d'ailleurs, disent les Échos. En juillet, les étiquettes affichaient encore un bond de 12,6% par rapport à l'année précédente. Je vous lis. Béné, hop, merci. J'allais te remercier pour ton sub, mais c'est 5 abonnements que tu offres à la commune. Merci. Bien sûr, chef Kéber va corriger. Quand on dit la baisse est la plus importante depuis 1980, ça ne veut pas dire qu'on mange moins qu'en 1980. Ça veut dire que c'est la plus forte baisse depuis 1980. On est bien d'accord. Il faut bien comprendre les chiffres. Je vous lis. L'augmentation des salaires ne suit pas l'inflation. Tu m'étonnes qu'on serre la ceinture. Purple T, tu as raison. On va faire un sondage. Si on t'aimait pas des pieds, on va faire un sondage, bien sûr. Les prix au magasin sont exorbitants. C'est ouf, me dit Dixon 9. Merci beaucoup, Silver Pingouin, pour ce 7e mois d'abonnement. Le panier anti-inflation, c'était une idée de zinzin, me dit Hachou. C'est une très bonne idée, sauf que c'est pas allé au bout, quoi. Alors, il y a eu des paniers anti-inflation qui ont été proposés par les distributeurs, à grand renfort de publicité d'ailleurs, mais pas ce fameux panier anti-inflation commun à tout le monde qui était voulu par le gouvernement, quoi. Tiens, Lilou Rennes dit, moi je privilégie les enfants, je réduis pour moi et je mange pas le midi. Voilà. C'est très concret. Perso, je saute le repas du midi et parfois le petit-déj. Me dit Gabdag, pardon. Voilà. Lorth d'Orcani. Avec mon épouse, nous faisons plus attention, effectivement. Réduction des restaurants. Plus de plats végétariens. Et on achète à la juste suffisance et en quantité. C'est fou, hein. Alors, sondage. Allez, sondage. Hop. Alors, je vais vous poser deux questions. Je vais faire deux sondages. Est-ce que vous avez réduit vos achats alimentaires? C'est le premier sondage. Et après, je vous posais la question de est-ce que vous sautez carrément des repas? Mais je suis obligé de faire deux sondages. Avez-vous? Réduit. Avez-vous réduit vos achats alimentaires?
Oui.
Je mets oui beaucoup. Oui un peu. Ou non, non, c'est-à-dire que l'inflation n'a pas eu de conséquences pour vous, vous mangez comme avant, quoi. Hein. Et je mets, je sais pas si vous êtes la tête de dans le guidon de votre console ou de votre PC et que vous êtes en train de tryharder là, depuis des mois et que vous ne savez même plus ce que vous mangez, etc. Ben, vous mettez, je sais pas. Avez-vous réduit vos achats alimentaires? Un, oui, beaucoup. Oui, un peu. Non, je ne sais pas. Premier sondage. Voilà les résultats. Ok. Et pendant ce temps-là, je vous lis. C'est parti. C'est vachement intéressant ce sujet. On est vraiment dans le quotidien là. Niku Manga dit, s'il vous plaît, c'est important, répondez au sondage. Ben oui, il a raison, Niku Manga. Là, depuis le début de l'inflation, quoi, de ces derniers mois, hein, pour ceux qui posent la question. Ces derniers mois, est-ce que vous avez réduit vos achats alimentaires? On parle en volume, hein. Hugo 90. Hugo me dit, on parle qualité, volume, les deux, on parle en volume. Est-ce que vous achetez moins à manger en volume? Est-ce que vous mangez moins? Hein, cette question est super claire. Parfois, mes sondages sont pas très explicites, mais là, est-ce que vous achetez moins à manger, quoi, hein? Moins, en volume. Mais le papy qui commence à gueuler, quoi. Ouais, vous cassez les couilles. Est-ce que vous avez réduit vos achats alimentaires? Vous êtes 12% à les avoir réduits beaucoup. Vous êtes 46% à les avoir réduits un peu. Vous êtes 38%, vous n'êtes que 38%. À ne pas avoir réduit vos achats alimentaires en raison de l'inflation. Voilà. Je n'ai pas le sondage, God Save the Frites, mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Tu es peut-être sur téléphone ou sur iPad, je ne sais pas. C'est dans le chat, normalement, tu as accès. Tu fais un petit refresh sur ton PC. Mais ça vote. Là, j'ai déjà plus de 1000 personnes qui ont voté. 4%, je ne sais pas. Donc voilà, il y a des gens qui sont un peu absorbés par d'autres tâches. Voilà, je parle. La création. Le jeu, le travail, l'amour, et qu'ils ne savent même pas s'ils ont... Ou alors ils font jamais les courses. C'est pas eux qui font les courses. Voilà. C'est ça aussi. Ouais. Si j'additionne les... Oui, j'ai beaucoup réduit mes achats. Oui, un peu. Je suis à 60... Non, pardon. À 57%. 57, c'est ça? 5, ouais. 57%. Non, 39%. 4%, je ne sais pas. Alors, maintenant, deuxième sondage. sur est-ce que depuis le début de la hausse des prix, merci Dibrac pour les bits, c'est adorable, hop, est-ce que depuis le début de l'inflation, là, vous avez même, nouveau sondage, commencé à sauter des repas? Pas pour des raisons de flemme ou de régime, ou c'est parce que vous le faites depuis toujours. La question, c'est depuis le début de la hausse des prix, là, depuis l'inflation des produits alimentaires, est-ce que vous avez commencé à sauter des repas? Pour des raisons d'argent, hein. Ok? Si vous n'avez jamais fait de petit-déj de votre vie, vous répondez non, hein. Je rajoute pour des raisons d'argent. Voilà, pour des raisons financières. Oui, non, je ne sais pas. Les gens qui sont vraiment très fatigués. Ok. Sautez-vous des repas pour des raisons financières. Oui, non, je ne sais pas. C'est parti. Re-sondage. On enchaîne comme des fous. Hein, la folie du sondage ce matin. Hop. Et je vous lis pendant ce temps-là. Un seul repas par jour pour croque doux. Pour la sécurité de mon entourage, il vaut mieux que je ne saute pas un repas, me dit Purple T. Audrey Good Vibe, le midi au travail. Oui, je saute. Flemme de faire une gamelle et c'est trop cher le tout prêt. Tous les jeux de mots sur le verbe sauter, je ne les lis pas. Bien sûr. Vous m'avez pris pour qui? Voilà. Hein, mon plein de courses a pris 15 euros, me dit Moye, alors que j'achète toujours la même chose. Hein. Voilà. Sachant, comme le dit Alopinos, que la population qui regarde le stream est sûrement un peu plus favorisée que la moyenne française, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Ok, les résultats, c'est énorme. Vous êtes 19% à sauter des repas pour des raisons financières. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. 20%. Vous voyez, certains pouvaient estimer que le chiffre évoqué par les Échos était important. 28% des Français, selon une enquête, selon un sondage en juin, indiquaient qu'ils sautaient régulièrement des repas. Vous êtes 20%. C'est beaucoup. Il y a 198 viewers ce matin là qui disent dans ce sondage je saute régulièrement des repas parce que c'est trop cher. C'est ouf. C'est énorme. C'est incroyable. Bon, je suis content d'avoir eu cet échange avec vous. Alors peut-être effectivement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. Et vous êtes plusieurs à me dire, mais peut-être parce que il y a beaucoup d'étudiants aussi dans ce chat. Peut-être bien effectivement. Alors ça surprend certains, anti-temps écrit, c'est terrible, je suis complètement déconnecté de la réalité. Je ne conçois pas que 20% des gens du chat aient à sauter un repas par manque d'argent. C'est vrai que c'est... Je comprends anti-temps, hein. Ce sont des chiffres surprenants. Je vois vos réactions d'ailleurs. C'est fou, hein. Et après, on s'interroge sur les tensions sociales dans notre pays... La colère, parfois, quand on voit ce chiffre, ça fait réfléchir. Hein. T'es fou. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce double sondage. Tiens, voilà. Alors, moi, je me mets pas en mode poujadiste, quoi, ou démago, mais... Quand Gilous 985 écrit et les politiques trouvent ça normal, je trouve que cette question-là qu'on vient d'évoquer ensemble là, des Français qui ont réduit leurs achats alimentaires et des Français qui sautent des repas. Vous la voyez beaucoup, vous, dans le débat politique? Cette remarque, je la trouve pertinente. Vous la voyez beaucoup, vous? La politique, c'est pas se poser les bonnes questions sur la question essentielle du moment? Jamais, pas du tout, nulle part, chez Ruffin, Bidibidou, pardon. Oui. Non, jamais c'est terrible. Ratax, dans certains pays, parti. C'est fou, non? On nous parle d'autres sujets, hein. Mais pas de ça. Ouais. Merci beaucoup Arnaud pour ce deuxième mois d'abonnement. C'est très gentil. Merci de ton soutien et merci du gentil message. Allez. Oh. Les habitués le savent, ce magnifique, comment on dit, bâillement, c'est ça? Enfin, comment on s'étire comme ça, je sais pas ce que ça fait. Annonce une mini pause. Hop, je vais aller recharger. La caféine, exactement, les habitués le savent, c'est parti. Donc, je vous abandonne pas, hein, regardez, il y a plein de trucs qui arrivent là. Donc, après, on parle de la situation au Niger. C'est vachement intéressant ce que racontent Le Monde et La Croix sur le fait qu'il y a une partie importante de la population du Niger. Les jeunes, notamment, qui soutiennent les putschistes, les militaires qui ont fait le coup d'État. Pourquoi? C'est assez étonnant, vous verrez. Là, moi, j'apprends plein de choses... assez étonnante. Bon, là, pas de nouveauté du côté de la guerre en Ukraine, mais je voulais vous en reparler, le fait que le front était gelé et que la contre-attaque ukrainienne se heurtait à une forte résistance russe. Donc ça, c'est important de faire un point sur cette guerre qui se poursuit. Pourquoi vous avez des grands footballeurs, notamment européens, qui partent jouer en Arabie Saoudite? Voilà le niveau du championnat de foot saoudien. Eh ben, il y a un dossier dans Libération de plusieurs pages qui est passionnant là-dessus. Et puis on terminera avec un sujet... sur la précarité encore dans l'humanité, sur la précarité qui touche de plein fouet les guides et les médiateurs. Et là aussi, j'ai appris des trucs de fou. C'est ce que l'UMA appelle ce matin l'ubérisation de ce métier. Et c'est un petit peu ennuyeux, si je puis me permettre. Ok, je me recale sur le Niger. Tac. Et je vous fais la petite pause musicale. Musicale pour les abonnés. Mini pub pour ceux qui ne le sont pas. On se retrouve dans 3 minutes. Caféiné à donf. Oui, mon sondage, là, je le ferme. Tac, celui-là, il n'y a plus besoin. Caféiné à donf pour lire tous ces journaux. Alors, je vais vous mettre quoi comme musique? C'est bien ça ou pas? Oh oh! Et ouais, que c'est bien, c'est carrément bien. Je baisse un petit peu le son. On se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite, bande de belles personnes. J'aime bien celle-là. Allez, il reste 10 secondes, on va au bout. Allez, bien cette chanson, c'est mieux avec le micro ouvert. Question à l'instant de Jeff Bizous. Je me posais la question, il n'y a pas de problème de DMCA sur Twitch? Si, bien sûr, t'as pas le droit de jouer de la musique sur Twitch sans en avoir les droits. C'est pour ça que je suis abonné à un site en fait qui propose de la musique libre de droit, moyennant un abonnement. Voilà, comme ça je suis tranquille. Voilà, parfois il y a Twitch qui t'envoie un petit message d'avertissement en disant hop 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 hop, dis donc, c'est quoi cette musique que t'as passée là, et qui te coupe au replay d'ailleurs le passage. Voilà, et puis tu risques bien sûr un avertissement quoi. Et là tu réponds j'ai les droits chouchou, je suis abonné, et là hop, et Twitch dit ok d'accord, pas de problème. Donc voilà, donc merci, merci pour les subs, ça paye l'abonnement à ce truc là. Lilou Renez, merci justement pour l'abonnement que t'as offert à Ratax7. Merci Arnaud pour ce 24e mois d'abonnement. Encore message adorable, je reçois pendant la pause café, je lis mes mails rapides pour voir s'il n'y a pas une urgence, et je vois un mail de la maîtresse à l'école, hein. C'est la seule maîtresse qu'on a dans cette famille. La maîtresse de Malo, qui donc est mon grand, qui va avoir 7 ans là, et qui vient de faire son CP. Et donc j'ai sa maîtresse qui est adorable, qui est super. Je suis allé faire une question pour un champion dans la classe pour les enfants. Avec des questions adaptées, je me suis régalé. Ils sont forts les gamins, c'est incroyable. J'étais bluffé. Et donc la maîtresse envoie un mail pour Malo. Je te souhaite un très bel anniversaire. J'espère que tu passeras une belle journée et que tu seras gâté. Je garde un très bon souvenir de ton passage dans ma classe. C'est tellement gentil. Bon, il est né le 30 août, donc c'est dans 20 jours. Mais ça fait bien plaisir quand même. C'est adorable. C'est trop chou. Voilà. Il vaut mieux avoir 20 jours d'avance que d'oublier l'anniversaire. Voilà. Mais c'est vraiment trop choupi. D'ailleurs, elle l'est. Comme d'ailleurs toutes les maîtresses que Malo a eues, parce que dans cette école, en petite section, moyenne section, en grande section, il a eu 3 super maîtresses. C'est le cas de nouveau cette année, et puis je suis sûr que ce sera le cas l'année prochaine aussi. Grand respect aux enseignants, vous faites un des plus beaux métiers du monde, sinon le plus beau, et il n'est pas facile. Pois et Sand, merci pour le 3e mois d'abonnement. Bam, c'est pour payer l'abonnement à la musique. La maîtresse. Bah oui, quel mot voulez-vous que j'utilise, hein? Je veux dire, voilà. Moi, j'ai passé l'âge. Voilà. D'être à l'école, je veux dire, bien sûr. Oui, l'enseignante pourrait dire. Ah, oh, j'aime bien la maîtresse, moi. J'aime bien ce mot. Ouais, alors, la maîtresse. Ouais, la maîtresse. Oh quoi, ouais, l'institutrice, professeur. Oh là 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 là. Ouais. Moi, j'aime bien. Vous aimez pas maîtresse? J'aime pas. Et puis c'est bien, ça permet à certains de faire des blagues pourries dans le chat. C'est bien. Voilà. Sam. Et 13, très bien, je valide Noob Jabs et je valide le Prime que Nouilly vient de lâcher à l'instant, merci, je prononce bien j'espère. Voilà, quand ils sont petits on dit maîtresse, c'est ça. Oui c'est ça, puis en grandissant ils vont, qu'est-ce qu'ils ont dit, le prof, ah, la prof. Ah, ouais. ah oui, ça c'est, oui, quand on va se rapprocher du début de l'adolescence là, ouais le prof, il est nul, il comprend rien, ça, c'est, là c'est, on passe sur autre chose là. Ouais. Je suis pas le seul, hein. Il y a Scare Ryu qui dit moi aussi j'aime bien ma maîtresse. Voilà. Merci TJ 9269, merci pour le Prime, merci pour le soutien. Voilà. Silanier, merci pour le Prime. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit force aux enseignants et qu'il y a plein d'enseignants dans le chat, je ne sais pas si c'est le cas, Mais j'ai bien fait. Ça sub en pagaille. Merci de votre soutien, blague à part. Bon. Après ce petit pas de côté sur la question des maîtresses, quel soit le sens qu'on mette derrière ce mot, eh bien, on va parler du Niger. Parce que on va aller un peu plus loin sur ce coup d'État au Niger qui a eu lieu il y a 15 jours. Je vous rappelle les événements, les épisodes précédents pour ceux qui ont raté. Il y a 15 jours, coup d'État au Niger. Les militaires, comme ça s'est beaucoup produit en Afrique, et notamment dans la région du Sahel ces derniers mois, coup d'État militaire qui dépose le président élu démocratiquement, un civil, boum. Il est toujours retenu d'ailleurs dans la résidence présidentielle. Sur ça, inquiétude des pays occidentaux, notamment ceux qui ont des militaires sur place, je pense à la France ou aux États-Unis. Pression des États voisins, notamment réunis dans la CDAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui disent ultimatum, si dimanche minuit, dimanche dernier, là, vous n'avez pas rendu le pouvoir aux civils, intervention militaire. On est quel jour? On est jeudi. Pas l'intervention militaire. On va en parler. Donc ça, c'est les épisodes. Et maintenant, ce qu'on va apprendre dans Le Monde et dans La Croix, eh bien, c'est qu'une partie importante de la population, notamment les jeunes, soutient qui? Les militaires putschistes. Ah. Et notamment parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire sur le régime précédent, le régime qui a été mis de côté. C'est parti. Et ça, c'est nouveau par rapport à ce que j'ai pu vous lire là-dessus. Le Monde, au Niger, la parole se libère. La junte confortée décrivant l'enrichissement d'une élite. On va parler de corruption ce matin. Notre envoyé spécial, donc celle du Monde, a rencontré des Nigériens qui préfèrent les militaires à une démocratie, ouais, mais une démocratie malade. C'est le même angle, hasard un peu de l'actualité, choisi par La Croix et Le Monde ce matin. Niger, donc la junte, les militaires, la junte c'est les militaires, la junte portée par la colère contre une démocratie malade, les putschistes capitalisent sur les rancœurs des Nigériens contre la corruption et les atteintes aux libertés. La rancœur est profonde, écrit l'envoyé spécial du Monde, qui s'appelle, où est son nom, Morgan Le Cam, donc je vais rendre aux auteurs les droits de leur prose. La rancœur est profonde, écrit Morgan Le Cam, et bien qu'il ait été l'un des plus proches de l'ancien président Issoufou, donc c'était pas le dernier président, c'était celui d'avant, le général Tiani, le chef des putschistes, capitalise sur cette rancœur. Lors de son allocution télévisée du 2 août, le chef des putschistes ne s'est pas contenté de dénoncer le bilan sécuritaire du gouvernement, notamment l'insuffisance des résultats contre les djihadistes dans la région. Il a égrené les problèmes de corruption généralisée, d'impunité, de gabegie, de détournement des deniers publics, de clanisme partisan, de dévoiement du cadre étatique au profit des intérêts privés étrangers, d'écoles en crise et d'effondrement du système de santé. Les mots décrits, explique Le Monde, sont une réalité. Enfouis sous un vernis qui s'écaille à mesure que la parole se libère au Niger. Pour les Occidentaux, à commencer par la France, c'est un peu ce qu'on a lu ces derniers jours, hein. Le Niger apparaissait comme un exemple pour la démocratie, selon la formule d'Emmanuel Macron en 2020. De quelle démocratie parle-t-il ? Nous, Nigériens, n'avons vécu que l'étouffement de nos droits fondamentaux et vu la corruption et l'enrichissement illicite atteindre des sommets depuis plus de 10 ans. Qui dit ça? C'est Eladji Idi Abdou, qui est le vice-coordinateur d'une ONG qui s'appelle Alliance pour la paix et la sécurité. Selon lui, le président, celui qui vient d'être déposé là, Bazoum, a essayé d'améliorer la situation. Toutes les personnes interrogées d'ailleurs par Le Monde le reconnaissent, que le président a essayé d'améliorer la situation, mais il n'avait pas vraiment les mains libres, poursuit le militant, car en réalité, le PNDS, c'est le parti qui a été au pouvoir au Niger depuis 10 ans, précisément, le PNDS, c'est le Parti Nigérien pour la démocratie et le socialisme, c'est le parti au pouvoir avant le putsch. Voilà. Le PNDS décidait beaucoup pour le président. Les Nigériens ont retenu le système qu'il incarnait et non ses actes. Ce népotisme présumé du pouvoir déchu, les Nigériens lui ont même donné un nom, l'ont appelé le régime PAC, PAC, P-A-C, pour parents, amis, connaissances. Et le fils du président Issoufou, donc pas le dernier président, celui d'avant, Mahaman Sani Mahamadou, en est l'une des incarnations, directeur de cabinet de son père, pendant un temps. Donc déjà, c'est vrai qu'avoir son fils directeur du cabinet dans une démocratie, c'est pas, on n'est pas sur le top du top du top. Il fut propulsé ensuite, sous le président suivant, au poste stratégique de ministre du pétrole et de l'énergie, donc au lendemain de l'arrivée au pouvoir du président Bazoum. C'est un petit peu embêtant. Il figurait, ce monsieur, en 2022 parmi les personnalités politiques en fonction les plus riches du Niger. Selon un rapport de la Cour des comptes consulté par Le Monde, sa déclaration de patrimoine s'élevait à 1,8 million d'euros. Cette année-là, le gendarme des finances nigérien a recensé à ses côtés 9 autres millionnaires ayant déclaré des fortunes allant de 1,2 à 1,5 million d'euros. Tous appartenaient au parti PNDS ou à un parti l'ayant soutenu. Le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens déclare « Ce n'est pas le coup d'État que la jeunesse du pays a soutenu. C'est le changement qui l'a amené, qui a mis fin à cette frustration profonde d'un peuple qui, vis-à-vis d'un régime qui n'était pas un État de droit. » Les Nigériens ont gardé en mémoire l'affaire, une affaire qui est intéressante, l'affaire du ministère de la Défense, le plus gros scandale financier présumé de l'ère Issoufou révélé en février 2020, matériel militaire non livré sur facturation, le document établit un manque à gagner de plus de 115 millions d'euros, entre 2017 et 2019, à une période où les soldats nigériens tombaient au combat face aux groupes djihadistes. C'est-à-dire que pendant que vous aviez des militaires nigériens, qui tombaient au combat face aux djihadistes, vous aviez un détournement sur le matériel militaire de l'ordre de 115 millions d'euros. La parole maintenant à Maman Sani Malam Maman, secrétaire général du Modem Fa Lumana, c'est le principal parti d'opposition nigérien. Que dit-il ? Pour la France, les militaires au pouvoir sont illégitimes. Mais un président représentant un système qui a mis en prison ses opposants, bâillonné son peuple, volé de l'argent comme des élections, est légitime parce qu'il défend les intérêts français. Ama Amadou, le chef du Modem Fa Lumana, vit toujours en exil après avoir dû faire campagne en prison contre Mahamadou Issoufou en 2016, puis déclaré inéligible l'opposant, et donc écarté de la course à la présidentielle contre Mohamed Bazoum, le dernier président. 5 ans plus tard. Et la France, peste l'opposant, a dit que les élections s'étaient bien passées. Alors, là on a un article sérieux, un article rigoureux du Monde, et la Croix dit la même chose. Les envoyés spéciaux des journaux constatent que sur place, en fait, ben, les langues se délient, et les gens disent, ouais, sauf que, ok, c'était un président élu démocratiquement, mais on se rend compte d'abord que à cette présidentielle démocratique, bah, manifestement, il y a des opposants qui ne pouvaient pas participer. Il y a un problème de corruption dans le pays. Il n'est pas impossible que le dernier président Bouzoum ait tenté de faire des choses, mais manifestement avait pied et main liés par le parti au pouvoir. Et donc du coup. Je me rappelle de nos premiers échanges il y a 15 jours quand le putsch est arrivé et certains me disaient mais attendez, les militaires ils déposent qui ? Un président démocratiquement élu ? Je disais oui, a priori un président démocratiquement élu, donc c'est la démocratie qui est remplacée par les militaires au pouvoir. Et on se rend compte à la lumière, merci les journalistes, merci La Croix et Le Monde, qu'en fait la situation est un peu plus compliquée que ça. Alors attention hein, je dis pas vive les putschistes, vive les coups d'état. Un coup d'état militaire qui remplace une démocratie, même imparfaite, même avec tous les problèmes qu'on vient d'évoquer et de lister, c'est pas terrible non plus. Mais on comprend un peu plus pourquoi il y a une forme importante de soutien populaire à ces militaires. Et d'ailleurs, on retrouve la même chose dans des pays voisins comme le Burkina Faso et le Mali, dit La Croix qu'on va lire maintenant. Ça va être tout noir, étrange pseudo, au moment où on lit ce papier sur l'Afrique, mais merci beaucoup pour ce très gentil message et pour ce 8e mois d'abonnement. Niger, une jeunesse en plein doute, c'est le dossier de La Croix. Les putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger bénéficient d'un large soutien populaire, c'est également le constat de La Croix. Il y a deux semaines, les putschistes prenaient le pouvoir à Niamey à la faveur d'un coup d'État. Cette junte bénéficie du soutien d'une large partie du pays, comme au Burkina et au Mali voisin, c'est ce que je vous disais. Après avoir évoqué un temps une intervention militaire pour rétablir le président Bazoum, les États de la région affichent désormais une grande prudence et étalent leur division. La petite valeur ajoutée de ce dossier dans La Croix, c'est qu'en fait, on est en train de se rendre compte que d'interventions militaires qui étaient annoncées par les États de la région, a priori, il n'y en aura pas. Voilà. Un stade plein c'est le début de cet article qui est signé Thomas Hoffnung et Vivien Latour. Un stade plein. Le dimanche 6 août, les putschistes du Niger ont marqué les esprits. Ce jour-là, près de 30 000 de leurs partisans, parmi lesquels de nombreux jeunes, se sont rassemblés dans la principale enceinte sportive de la capitale Niamey pour acclamer les nouveaux maîtres de cet état du Sahel, l'un des plus pauvres de la planète. Démonstration de force à destination des pays voisins, qui ont évoqué une intervention militaire, et des puissances extérieures qui font pression pour le retour au pouvoir du président Bazoum, au premier chef la France et les États-Unis. De fait, comme au Mali et au Burkina voisin, où des militaires ont pris le pouvoir en 2020 et 2022, la junte dirigée par le général Tchiani bénéficie du soutien d'une partie non négligeable de la population. Je continue, si je retrouve là où j'en étais, parce que de temps en temps je lis le chat. Pardon. La question de la mauvaise gouvernance et du passage de témoins entre les présidents Issoufou et son lieutenant de l'époque, Bazoum, en 2021, tous deux issus du même parti, on en a parlé, le PNDS, surgit dans tous les discours. Pour de nombreux opposants, l'ombre de l'ancien président a toujours plané au-dessus de la tête de Bazoum, qui ne serait qu'un figurant. La nomination du fils Issoufou, on en a parlé tout à l'heure au poste de ministre du pétrole, dès le lendemain de la prise du pouvoir du nouveau président, a fait beaucoup jaser déjà à l'époque. À Agadez, dans le centre du pays, la parole à Wadel Boubacar, qui est l'ancien président du conseil communal de la jeunesse de la ville, et il dit « Dans la région, l'État n'a rien fait contre le chômage des jeunes. 12 ans de démocratie, ok, mais c'est la même chose et le même parti qui tient le pays. » Pointant le clientélisme politique, la mauvaise répartition de la richesse et des jeunes sans espoir, il s'exclame « Pourquoi pas les militaires ?» Pourquoi pas les militaires ? À Agadez, Wadel reconnaît que la question divise au sein même des familles, parce que tous les Nigériens ne sont pas derrière les putschistes, hein. La Croix le rappelle. Mes frères tentent de me raisonner en disant que les militaires au Mali ou au Burkina n'ont rien réglé concernant le djihadisme ou le développement, mais Bazoum n'a rien arrangé non plus. Dans un ou deux ans, assure Wadel, si rien ne va mieux, les jeunes n'hésiteront pas à manifester à nouveau, cette fois contre les militaires. Manif contre les militaires, en général, ça se passe pas très très bien. Ce n'est pas une adhésion politique, dit-il, c'est juste un ras-de-bol. À Maradi, capitale économique du pays, la parole maintenant au président du conseil régional, qui dit « les gens sont impatients ». Lui défend un petit peu ce qui s'est passé avant, hein, l'action des deux présidents, là. Il dit « où est-ce que je suis ?» Les gens sont impatients, mais il faut du temps pour construire des projets politiques. Depuis l'indépendance du pays en 1960, les quatre régimes militaires qui ont pris le pouvoir par la force au Niger n'ont rien réglé pour la population. Agadez Mariama, 30 ans, fait aussi part, elle, de son incompréhension. Ce coup d'État va juste nous ramener en arrière, sans compter les sanctions économiques qui ont été décidées par la CEDEAO. Elle ajoute, cette jeune femme, Bazoum était sur la bonne voie, donc le président qui a été déposé. Il commençait à avoir des résultats. Le problème du chômage existe depuis bien longtemps. Le gouvernement ne peut pas tout. Donc, voilà, vous avez un dossier dans la Croix qui est intéressant, qui donne la parole à ces Nigériens qui n'en pouvaient plus du pouvoir précédent et qui sont très contents de ce coup d'État, mais aussi à des Nigériens qui, eux, sont beaucoup plus inquiets, en disant « les militaires vont rien arranger ». Et puis une dernière info dans la Croix sur l'intervention militaire des pays de la région qui s'éloignent. Hein, vous avez été plusieurs ces derniers jours à m'interroger là-dessus en me disant « dis donc Sam, dimanche dernier minuit, tu nous as dit qu'il y avait ultimatum ». Des pays de la CEDEAO pour une intervention militaire, notamment avec les militaires du Nigeria, pour remettre le président Bazoum au pouvoir. Où en est-on ? On est jeudi. Eh bien, on n'en est nulle part. L'intervention militaire s'éloigne. La CEDEAO semble avoir renoncé à chasser les putschistes du Niger par la force. Pourquoi ? Tu bluffes, Martoni. Exactement, Joliok. Quatre jours après la fin de l'ultimatum enjoignant aux putschistes au Niger à renoncer au coup d'État, l'option d'une intervention militaire des pays de la CEDEAO apparaît de moins en moins crédible. Si aucune option officiellement n'est écartée, le président du Nigeria, qui est à la tête de la CEDEAO en ce moment, assure que la diplomatie est la meilleure voie à suivre. C'est le message qui devrait être martelé quand, aujourd'hui, parce que vous avez un sommet dans la région, au Nigeria, lors de la réunion des États membres de la CEDEAO. Après avoir adopté une posture très martiale, le dirigeant nigérian Nigérian, on est au Nigeria maintenant, voisin, a effectué en quelques jours une sérieuse volte-face devant l'absence de consensus sur une option militaire aussi bien à l'intérieur de son pays où les dignitaires religieux, l'opposition et les sénateurs sont hostiles à une aventure armée contre le voisin. Opposition et interrogation au sein de la CDAO aussi, sans parler des réticences des États-Unis et de la franche hostilité de l'Algérie, inquiète de voir les djihadistes profiter de la confusion pour marquer des points dans la région. Pour terminer cet article, la parole à un chercheur qui s'appelle Thierry Vircoulon qui dit « La CDAO va sans doute obtenir au mieux la libération du président Bazoum qui sera mis dans un avion direction l'étranger. » Je trouve que ces deux dossiers, ce matin, dans La Croix et dans Le Monde, donnent un nouvel éclairage à ce qui s'est passé au Niger et nous font comprendre que la situation était un peu plus compliqué que simplement un président démocratiquement élu renversé par des militaires. Bébert, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce coup d'État a généré une telle réaction de la CDAO et pas les coups d'État dans les pays voisins. Quelqu'un a une explication ? Je l'ai. On l'a évoqué récemment dans d'autres articles. En fait, il y a eu effectivement plusieurs coups d'État récemment au Burkina, au Mali, peut-être en Guinée, si je dis pas de bêtises aussi. Il n'y a pas eu de réaction aussi forte, aussi martiale de la CDAO. Tout simplement, là, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. Et en fait, ces pays de la CDAO, Nigeria en tête, ont très très peur en fait de cette contagion et également d'être frappés par des coups d'État. Donc là, ils ont réagi de façon un petit peu instinctive en disant « Stop, c'est fini, on va intervenir militairement si vous ne remettez pas le pouvoir au civil. » Bon, finalement, ils ne vont pas le faire. Mais voilà pourquoi cette réaction en fait, parce qu'ils sont très très inquiets pour eux aussi. Oui, effectivement, puisqu'on parle de l'actualité internationale, vous êtes plusieurs à me parler de cette image sur le candidat, un candidat à la présidentielle en Équateur qui s'est fait assassiner en sortant d'un meeting. J'ai vu l'info sur Twitter ce matin quand je préparais la revue de presse. Moi, j'aime pas réagir à chaud. Je préfère vous donner des éléments d'information plutôt que faire vivre seulement l'image et l'émotion. Quelques heures se sont produites devant ça. Je pense qu'on a des articles, on va aller voir. J'ai un article sur France Info là, qui a été posté il y a 3 heures. Équateur, donc c'est lui, on va aller voir les images parce qu'elles sont dingues. Le candidat à l'élection présidentielle, donc il s'appelle Fernando Villavicencio, tué par balle. Les images, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sont folles. L'état d'urgence déclaré dans le pays, c'était un journaliste de profession, un centriste, l'un des 8 candidats au premier tour de la présidentielle qui doit avoir lieu le 20 août, c'est-à-dire dans 10 jours. Deuxième dans les sondages. Tué par balle à la fin d'un meeting électoral à Quito. Le parquet a fait état de 9 blessés, dont une candidate à l'Assemblée et 2 policiers. Vous allez voir sur les images que en fait, les tireurs ont arrosé la voiture. Arrosé. Donc, centriste de 59 ans, journaliste de profession, un des 8 candidats au premier tour de la présidentielle, il était crédité de 13% des intentions de vote. Un journal local affirme que Fernando Villavicencio a été assassiné selon les méthodes des sicarios, les tueurs à gages, avec 3 balles dans la tête. Moi j'ai l'impression plutôt que la voiture a été arrosée, mais on voit pas très très bien. Quelqu'un me dit même que ça a été revendiqué par un cartel. Je cherche les infos. Un suspect mort après une fusillade, me dit Sud-Ouest. Est-ce qu'on a d'autres ? Bon, il y a pas mal d'articles. Alors ça, c'est typiquement un sujet qu'on verra dans la presse écrite de demain matin, avec des articles un peu fouillés pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Nous, on va aller voir ces images qui sont complètement dingues, qui sont partout sur les réseaux sociaux. Vous tapez Équateur sur Twitter, vous allez tomber sur cette séquence qui est incroyable. C'est une mort en direct, littéralement. Bah, tout à l'heure, il y avait avec nous dans le chat, il y avait Moussa du site Alerte Info là, qui était avec nous et justement sur son compte, je trouve. Ah ouais, vous avez raison. Vous êtes plusieurs à me dire, je vous montre l'image, qu'en fait, sur Twitch, la question de la violence, notamment de l'utilisation d'armes peut être un motif de ban, effectivement. Ouais. Voilà. Alors là, on est dans une mission d'information, évidemment. Il ne s'agit pas d'inciter à la violence. Mais on va pas prendre de risque, effectivement. Bon, ça, en deux clics, vous le trouvez sur Internet. Ouais, c'est saisissant parce que vous avez une caméra ou un iPhone, je sais pas, qui filme le candidat que vous voyez ici, là. Avec la chemise bleue, il est accompagné pourtant par des gardes du corps, quoi. Il rentre dans la voiture, et là on entend les coups de feu qui éclatent. Alors, je suis pas un expert en armes, mais ça sonne plutôt comme des armes de guerre que de petits pistolets, quoi. Et voilà. Donc je vous plais pas la vidéo parce que je pense que ça peut être problématique sur Twitch que des armes de poing, ouais. Exactement. Hop. Voilà, en tout cas, voilà ce qu'il en est. On en reparlera sûrement demain matin. Donc voilà pour ce dossier sur le Niger, qui est vachement intéressant. C'est dans Le Monde, c'est dans La Croix. On en parlera sûrement demain matin de ce qui s'est passé là en Équateur. Je vous emmène en Ukraine. Hein, alors c'est comme le Covid, ça. C'est un truc qui s'est installé. Et donc du coup, on n'en parle plus. Hein, les médias en parlent quasiment plus, enfin beaucoup moins. Cette guerre qui est à nos portes en Europe, elle est toujours là pourtant. Elle continue de faire des morts. Et moi, régulièrement, eh bien, je veux faire un point avec vous pour vous dire où on en est de ce conflit. Voilà. Et le Figaro nous dit ce matin que la ligne de front ne bouge pas, quasiment pas, malgré les moyens militaires très importants mis par les deux protagonistes, par l'Ukraine et la Russie. En Ukraine, la contre-attaque ukrainienne qui a démarré il y a 2 mois se heurte à la résistance russe. À défaut d'avoir réussi à percer le front, l'armée ukrainienne est contrainte d'opter pour une stratégie de pression de longue durée, au risque de faire douter ses soutiens occidentaux. Je trouve que le Figaro résume très très bien la situation actuelle. C'est parti. 2 mois après le début de la contre-offensive ukrainienne, le front est toujours plus ou moins figé, les forces du président Zelensky cherchant les failles dans les lignes russes. Et ne les trouvent pas pour l'instant. En position défensive, la Russie joue la montre. Depuis des mois, elle a eu le temps de consolider ses lignes de défense. La perspective de regagner du terrain pour les Ukrainiens s'éloigne. Cette stratégie de lenteur, d'obstination, de trou de souris requiert un soutien dans la durée des Occidentaux, qui posent question, qui devant l'épuisement de leurs opinions publiques, hein, avec des voix qui s'élèvent, qui commencent à dire « Ah oui, mais ça coûte cher, tout ça », auraient sans doute préféré une issue plus rapide. Édito de Patrick Saint-Paul, « Guerre longue ». Le blitzkrieg ukrainien n'a pas eu lieu, blitzkrieg, guerre éclair. En 2 mois de contre-offensive, Kiev a repris 200 km² de terrain aux Russes. Autant dire que l'Ukraine est encore loin d'avoir bouté les occupants hors de chez elle. Poutine a conquis 40 000 km² de territoire avec son offensive de février 2022, qui s'ajoute aux 40 000 km occupés depuis le début de la guerre en 2014, hein, Crimée. À ce rythme, il faudrait plus de 60 ans pour venir à bout des Russes. Au rythme de reconquête ukrainienne actuelle, il faudrait plus de 60 ans pour venir à bout des Russes. La guerre n'est pas perdue, loin de là, mais les alliés de l'Ukraine devront tenir la distance pour une guerre qui se poursuivra donc en 2024 et qui va s'annoncer donc longue et coûteuse. Céder face à Poutine n'est pas une option. Cela signerait une défaite stratégique catastrophique pour l'Occident. Que faire alors? Les alliés de Kiev devront accélérer le rythme et la qualité des livraisons d'armes s'ils veulent donner les moyens aux Ukrainiens de réussir une percée dans le sud du pays. Question posée par le Figaro ce matin. L'Occident sera-t-il à la hauteur du défi? Et en a-t-il encore le choix? Je trouve que le résumé en quelques mots, quelques lignes dans le Figaro de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine est excellent. Je vous lis un petit peu sur l'Ukraine. Et après ce petit point, on enchaîne avec ce qui se passe en Arabie Saoudite autour du foot là, qui est assez hallucinant. Voilà. Voilà. Il y a un gros dossier dans le Figaro sur l'Ukraine si ça vous intéresse. Je vous lis un petit peu. Il y a Fable Art World qui écrit dans le chat et booter les occupants américains. Quoi, en Ukraine? Ils y songent. Alors, Fable Art World, je rappelle qu'ici on ne s'informe pas sur Facebook, hein, sur le compte de Papy José, et que. Voilà. On essaie de comprendre sérieusement les choses, quoi. Donc les occupants américains en Ukraine. Ah, on continue. Attends, ben j'avais SMS de tonton José. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, c'est... je fais ce que je peux. J'ai pas toujours les bonnes sources sur Facebook, mais j'ai peut-être raison. Bon. Toujours aux fraises, lui. Moi j'aime bien aussi qu'on critique, c'est toujours intéressant. Oscar Reptile, ton un peu condescendant, le Figaro n'est pas non plus la source de l'année. En fait, il n'y a aucune source qui est la source de l'année. En fait, toutes les sources, il faut les remettre en question. Toutes, même les sources de qualité. Les meilleures sources d'information, elles se trompent régulièrement. Manque de rigueur, travail trop rapide. Voilà. En revanche, quand vous avez une énormité comme ça dans le chat sur les occupants américains de l'Ukraine et que vous vous intéressez... un minimum à l'histoire de ce conflit, bon ben vous corrigez tout de suite quoi, bien sûr quoi. Et ça c'est de l'info Facebook quoi. Effectivement, là pour le coup, il y a un vrai problème de crédibilité sur ce genre d'info quoi. Voilà, donc ça veut pas dire que le Figaro est une bible, loin s'en faut. Aucune source d'information n'est une bible d'ailleurs. Il faut confronter, multiplier les sources, comparer, voilà. S'interroger sur la rigueur de tel et tel média, savoir qui le possède, qui possède ce journal, est-il réellement indépendant vis-à-vis des forces économiques, des forces politiques. Toutes ces questions, vous devez vous les poser sur tous les médias en permanence. Et puis à un moment, vous allez vous rendre compte que aucun média n'est une bible, mais que certains sont un peu plus rigoureux que d'autres, tout simplement. Et que Papy José sur Facebook, qui va vous expliquer que ce sont les Américains qui sont à l'origine de la guerre en Ukraine, par exemple, et qu'ils sont, pour reprendre les mots qui étaient dans le chat tout à l'heure, les occupants de l'Ukraine, hein, c'était le mot qui était utilisé, je crois. Bon, bah, en fait, cette information, elle n'est pas validée par la connaissance réelle de ce qui s'y passe, quoi. Et que bah, le Figaro ou un autre journal va peut-être se tromper sur des trucs régulièrement, comme tout média d'ailleurs, mais globalement, moins que Papy José que j'évoquais à l'instant. D'ailleurs, même la Bible n'est pas une Bible du MHB, tout à fait. Hop, bon, j'arrête de râler et je vous parle d'un truc que j'ai trouvé très intéressant ce matin. Papy José, si tu me regardes, j'ai rien contre toi d'ailleurs. Mais il faut arrêter avec ce compte sur Facebook qui raconte n'importe quoi sur tout. Là. Pourquoi vous avez plein de grands footballeurs, notamment européens, qui vont jouer en Arabie Saoudite? On est d'accord que le championnat de foot saoudien, bah, c'est pas le plus impressionnant au monde. Voilà. Et pourtant, la thune me répond-on dans le chat. Et pourtant, entre Ronaldo, entre Benzema, entre comment il s'appelle l'ancien champion du monde de la France, N'Golo Kanté, eh bien, vous avez de grands joueurs, pas toujours en fin de carrière, parfois encore excellents, qui partent en Arabie Saoudite. Voilà. Alors, effectivement. Comme le dit Zanonox dans le chat, c'est pas le challenge sportif qui les attire a priori, plutôt le montant du chèque. Mais il y a un dossier dans Libération qui est passionnant là sur tout ça. Sur un, effectivement, pourquoi ces joueurs ils partent, il n'y a pas trop de soucis, mais surtout pourquoi l'Arabie Saoudite dépense ses millions pour booster son championnat de foot saoudien. Voilà, c'est du soft power, effectivement. C'est du sport washing, disent les autres. C'est parti. Dossier passionnant. Dans l'IB, le montant du chèque, je n'ai pas fait exprès, chèque, Arabie Saoudite, pas mal. C'est parti. L'Arabie Saoudite veut redorer son gazon. Blason, gazon, IB, c'est les meilleurs pour les titres, vous le savez. Donc Riyad achète les vedettes européennes du foot comme des petits pains. C'est là où je me dis, putain, j'aurais dû faire foot, quoi. Voilà. Bon, enfin bon. Une facette parmi d'autres de la stratégie globale du prince héritier, Mohamed Ben Salman, MBS, de sinistre réputation. Savent ceux qui s'intéressent un petit peu à l'actualité.
notamment pour son rôle dans l'assassinat d'un journaliste dans une ambassade saoudienne. Pardon, je ferme la parenthèse. Donc, l'offensive du prince héritier MBS pour dynamiser l'économie saoudienne à coups de millions et améliorer l'image du royaume. Quel choc ! Qu'elle inquiète ou qu'elle séduise à travers la planète foot, la campagne d'acquisition inédite par l'Arabie Saoudite des stars du football européen se poursuit actuellement à un rythme soutenu et à l'approche de la clôture du mercato de l'année. Les montants prodigieux proposés par le Royaume pour attirer les joueurs, les plus grands joueurs des clubs européens introduisent une concurrence forcément déloyale, parce que là vous verrez l'argent il est quasiment nos limites, car les fonds viennent directement de l'État saoudien. Hein, c'est plus simplement un club, riche, aussi riche soit-il. Les fonds proviennent directement de l'État, premier exportateur mondial de pétrole, à travers le fonds public d'investissement dirigé par le puissant prince héritier Mohamed Ben Salman. Il ne représente d'ailleurs qu'une petite partie de ce que les Saoudiens sont prêts à dépenser pour réaliser leur objectif affiché de faire figurer la Saudi Pro League, championnat qui reprend d'ailleurs aujourd'hui, je crois, dans le top 10 des meilleurs championnats du monde. Souvent qualifié de sport washing, les investissements saoudiens dans le foot international servent à quoi ? Sans doute à détourner l'attention du bilan du royaume en matière de droits humains. Mais contribuer également à accroître sa visibilité, son rayonnement mondial, à l'exemple des Émirats Arabes Unis ou du Qatar, propriétaire de clubs européens de premier plan, le PSG par exemple. La différence avec ses voisins, c'est que la population saoudienne est assez importante, 35 millions de citoyens, dont plus de la moitié ont moins de 30 ans, et Libération nous explique que mobiliser cette génération jeune au moyen du sport et d'autres divertissements constitue un autre objectif politique, une sorte de sport washing intérieur. À travers sa vision 2030, le plan pharaonique de diversification de l'économie pour la rendre moins dépendante du pétrole à l'horizon 2030, MBS vise en priorité... Ouais, c'est du pain et des jeux, exactement, Netluche. La jeunesse saoudienne, il s'agit d'abord de l'occuper avec des jeux avant de lui faire gagner son pain en créant des emplois dans des projets de développement parfois mégalo prévus dans le programme de l'insatiable prince héritier. C'est vachement intéressant. Hein. Tels les travaux d'Hercule, un mot de ses chantiers, 12 méga-projets sont mis en avant dans le cadre de ce plan Vision 2030 qui doit donc révolutionner l'économie saoudienne. Ils vont de la création d'une ville futuriste, intelligente et écologique, The Line, je ne sais pas si vous avez vu des trucs sur ce projet de dingue, dans le désert saoudien, au développement d'un programme spatial, en passant par des plans ambitieux pour le développement de l'énergie solaire ou la fabrication de voitures électriques. Des sites touristiques géants sont développés, tels que celui archéologique d'Al Hula, confié à la France, ou celui de Souda, une luxueuse station de montagne dédiée à l'écotourisme dans la région d'Al Azir, dans le sud-ouest du pays, de quoi faire passer Disneyland pour un petit square de nos quartiers. Parmi tous ces projets représentant des investissements de milliers de milliards d'euros, le foot n'est qu'un sous-ensemble intégré au programme plus global Sport Boulevard, c'est le nom du truc, Sport Boulevard, qui comprend aussi l'équitation, le cyclisme, le golf ou même le cricket. Les investissements dans le foot, c'est énorme, mais c'est rien par rapport au reste. Alors, Libé, très pédago, nous fait le mercato faramineux de Riyad en 6 questions. Le championnat saoudien reprend aujourd'hui, mais le mercato lui est pas terminé. La Saudi Pro League de foot reprend. Ah, c'est pas aujourd'hui, c'est vendredi, j'ai fait une erreur. C'est demain. Demain, renforcé par plusieurs stars planétaires recrutées à prix d'or, décryptage des dessous de l'arrivée des Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Seko Fofana et consorts. Une fois n'est pas coutume dans le monde du foot, ce n'est pas le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea ou encore le PSG qui affolent en ce moment le marché des transferts estivaux. Depuis quelques semaines, l'Arabie Saoudite, qui n'accueillait jusque-là qu'une poignée de joueurs connus des spectateurs européens, use de moyens colossaux subitement injectés par la pétromonarchie de Mohamed Ben Salman pour recruter des stars à prix d'or. On va voir les prix d'ailleurs. Et c'est pas fini, puisque le mercato saoudien, il ferme ses portes que le 20 septembre. C'est-à-dire 3 semaines plus tard qu'en Europe. Qui sont les joueurs qu'on signe en Arabie Saoudite ? Fin décembre 2022, ça a commencé avec le Portugais Ronaldo, Cristiano de son prénom, icône mondiale, quintuple ballon d'or quand même. Qu'Al Nassr, le club, avait inauguré cette nouvelle ère du foot saoudien. Début juin, l'attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema, meilleur joueur du monde 2022, signe dans un autre club, Al Ittihad, nouveau séisme. Vous avez Ronaldo, vous avez Benzema, quoi.
Depuis, c'est la déferlante, une quinzaine de grands noms ont rejoint la Saudi Pro League. Parmi les nouveaux arrivants, le Sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, l'Algérien Riyad Mahrez, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, le champion du monde du français N'Golo Kanté. Si une partie de ces recrues, parfois, sont des stars un tout petit peu sur le déclin, d'autres sont encore dans la force de l'âge et pourraient être titulaires dans la plupart des grands clubs européens, comme l'Ivoirien Seko Fofana, le Serbe Sergei Milinkovic-Savic ou encore le Brésilien Fabinho. Seule ombre au tableau du spectaculaire mercato saoudien, le Royaume a échoué à faire venir Lionel Messi et Kylian Mbappé, deux monstres de la discipline, restés pour l'instant insensibles aux propositions mirobolantes de la Saudi Pro League. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est surtout par le niveau de la rémunération proposée, on s'en doute un peu, à ces recrues les plus célèbres que se distingue la Saudi Pro League. Parlons dessous un petit peu. 200 millions d'euros par an pour Ronaldo. Autant pour Karim Benzema. question qui n'est pas anecdotique, à quoi va ressembler le quotidien des joueurs et de leur famille en Arabie Saoudite, qui est un pays où les normes morales et légales peuvent, varier par rapport aux environnements qu'ils ont connus. Hein. Eh bien, l'Arabie Saoudite a beaucoup changé, nous dit Libé, depuis l'arrivée au pouvoir de MBS en 2017. L'autocrate a entamé une politique de libéralisation en matière de mœurs, visant à dégager son pays de l'influence du clergé wahhabite. Si l'homosexualité demeure passible de la peine de mort, les femmes sont désormais autorisées à conduire. La police religieuse, chargée notamment de veiller au port du voile, a eu des pouvoirs fortement réduits. La musique, le divertissement sont désormais tolérés. Subsiste l'interdiction de boire de l'alcool. Mais il n'y a guère de risque de fait de voir les stars du ballon rond qui résident comme la plupart des riches étrangers en Arabie Saoudite dans de vastes résidences fermées, inquiétées par la police à ce sujet. Dernière question. Comment pourra-t-on suivre le championnat saoudien, hein? Peut-être que des passionnés de sport vont vouloir suivre les perfs de Ronaldo, de Benzema, de N'Golo Kanté, etc. Dans le championnat saoudien. Eh bien, comme vous le dites dans le chat, c'est Canal+. L'ancien diffuseur historique du foot français, désormais supplanté dans l'Hexagone par Amazon, qui a décroché la mise, la chaîne cryptée l'a annoncé mardi soir sur X, sur Twitter, annonçant avoir trouvé avec la Saudi Pro League un accord qui court sur les deux prochaines saisons. On ne connaît pas le montant du chèque. Elle précise, Canal, qu'elle retransmettra chaque week-end 3 rencontres du championnat de foot saoudien. Voilà. L'audience sera-t-elle au rendez-vous? Certains ont déjà dans le chat dit non, moi je ne regarderai pas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Il y a deux aspects, hein. Il y a l'aspect sport ou washing pour bonifier l'image de marque du pays et du régime. Et puis il y a ces joueurs qui partent là-bas, quoi. Vous n'êtes pas convaincu, hein. C'est non, me dit Fufutwik. Rien à foutre, joli, me dit Dadao. Comment regarder ces matchs, c'est soutenir la non-liberté, dit Onolay. Moi, je m'en fous, dit Yojak. C'est parti, le jeu de mots, c'est la fête. Allez, Guingamp, me dit El Chipardo. Tal Blaise nous dit, le foot est à la fois le sport collectif auquel je préfère jouer, mais aussi celui que je déteste le plus pour sa corruption intrinsèque. Alors j'ai vu ton message de Turaz. Tuturaz depuis tout à l'heure parce que tu as copié-collé quand même ton message 2-3 fois, sache que je les ai vus à chaque fois. Est-ce que tu sais où je pourrais avoir un gros débrief de l'actualité du monde hispanique durant l'été? Ça m'aiderait grandement, merci d'avance. Désolé, je ne sais pas. Où est-ce que tu peux avoir un gros débrief de l'actualité du monde hispanique durant l'été? Peut-être que si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu cherches des comptes, comme il y en a certains en France qui suivent un petit peu que l'actu du monde hispanique, tu pourras peut-être trouver un espèce de petit truc, quoi. Alors, on me dit que BBC a peut-être un canal espagnol, France 24, un canal en espagnol, RFI, j'aurais dû y penser. RFI a sûrement une antenne en espagnol aussi. RFI, j'ai travaillé 5 ans, j'aurais pu en parler. Voilà. Après, il y a les médias El Mundo, El País, bien sûr. Ronan nous dit le JDD, pas sûr. Non. Ou alors, Julien nous propose de demander au célèbre journaliste espagnol, Samuelo Etienne, ou à Papi José. Non, Papi José, il est portugais d'origine. Sinon, c'est Papi José. Non, forcément. Yann, merci pour ce 23e mois d'abonnement. Yann 009, c'est adorable. On va finir avec un dernier sujet qui est un peu inquiétant, qui est un peu embêtant. Pour qui s'intéresse au monde de la culture, de l'art et au musée de notre pays, c'est l'humanité qui nous révèle que l'ubérisation est en train de rentrer dans les musées français, et croyez-moi, c'est super flippant. Externalisé à des sociétés privées, les guides et médiateurs qui jouent un rôle essentiel dans la vie culturelle de notre pays, demandez à l'ami Étoile et ses streams dans les musées français, subissent de plein fouet la précarisation de leur métier. Et c'est pas des mots. Voilà. Édito de Laurent Mouloud, excellent édito dans l'UMA. Poison, c'est le titre de l'édito. Du droit du travail au travail sans droit. Depuis une dizaine d'années, le poison de l'ubérisation s'attaque à tous les pans de l'économie. Pas un domaine n'échappe aux visées dérégulatrices de nos chers libéraux et de leur mirage d'auto-entrepreneuriat. Donc là, c'est un édito un peu général sur l'ubérisation de notre économie pour expliciter un petit peu ce titre de l'UMA. Et après, on verra ce qui se passe dans les musées actuellement. Après, l'hôtellerie. Après les transports de personnes, après la livraison à domicile, c'est au tour des musées de subir leurs assauts. En juin dernier, les guides conférenciers du Musée national de l'histoire et de l'immigration, jusqu'ici salariés de l'établissement public, hein, expliquaient comment leur mission avait été externalisée avec une société privée, avec l'obligation, s'ils souhaitaient continuer à travailler, de prendre un statut de micro-entrepreneur, perdant au passage près de 50% de leur rémunération. Perte de rémunération, et après il y a la question de la précarité et la question de la protection sociale aussi, hein. Malheureusement, ce brutal processus de précarisation n'est pas un cas isolé et pourrait concerner le musée du Louvre. Le Saint des Saints en passe de confier à ce même genre de prestataire privé l'ensemble du secteur des guides conférenciers à partir de 2024. Une telle évolution met en péril l'avenir de la profession, dit l'Humanité, et le reste de l'article effectivement va nous le montrer. L'ubérisation pressure les travailleurs, épuise leur quotidien, fragilise leurs droits et l'avenir de notre modèle de protection sociale. Mais ce n'est pas tout. Dans ce cas précis, elle fait peser également une lourde menace sur la démocratisation de la culture de notre pays. Les guides ne sont pas que des passionnés d'histoire. Ils sont là pour assurer l'une des quatre missions principales des musées telles que définies dans le Code du patrimoine, à savoir mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture. En dégradant ce métier, écrit Luma ce matin, c'est le partage de notre bien commun artistique qui est dégradé. Le combat des guides conférenciers nous concerne tous et s'inscrit dans une lutte plus vaste contre les velléités réformatrices d'un Emmanuel Macron, soutien indéfectible du modèle Uber selon Luma. Ça, c'est l'édito général. Maintenant, regardons avec l'humanité ce qui se passe actuellement dans les musées français, et c'est un peu chaud, quoi. Épuisement professionnel, absence de protection sociale et de perspective. Alors que les musées externalisent leur personnel en charge des visites guidées, les médiateurs culturels et guides conférenciers paient au prix fort leur métier passion, exercé dans des conditions toujours plus difficiles. Il y a encore 15 ans, ces professionnels, qu'on estime environ 7000 personnes en France, étaient pour nombre d'entre eux salariés par les musées ou la réunion des musées nationaux, ce qu'on appelle la RMN, prestataire public au service des institutions. Aujourd'hui, la situation s'est renversée. Après l'externalisation des agents de nettoyage, de la sécurité ou de la surveillance, c'est désormais la médiation culturelle qui est concernée. Dès son ouverture, il y a quelques exemples, par exemple en 2006, le musée du Quai Branly a fait appel à une agence extérieure pour assurer les visites guidées. Après une fermeture pour travaux, le musée Picasso a fait le choix lors de sa réouverture en 2021 de passer lui aussi par une agence et plus par la RMN. Dernier exemple en date, celui du musée de l'immigration qui a supprimé 9 postes de guide conférencier en leur proposant de travailler pour un prestataire extérieur sous le statut d'auto-entrepreneur. Isarakiri, 2 ans. Putain, les gens qui subent cette chaîne depuis 2 ans, c'est ouf. Merci de ton soutien. Le prochain sur la liste n'est autre que le Louvre. Le musée devrait revoir sa convention séculaire avec la RMN à compter de 2024. Tremblement de terre pour un membre du conseil d'administration de la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers, interrogé par l'UMA, qui dit le Louvre, c'est le joyau de l'État. Quand on pense à un musée en France, on pense, il a raison, d'abord au Louvre. Un Louvre qui se dirige vers une externalisation avec des agences privées, alors qu'à chaque fois ça se passe très très mal, c'est un très mauvais signal. Envoyez. Certains, je vois, il y a Paul Auchaud dans le chat qui est guide conférencier. Certains sont directement concernés, je vais vous lire. Hein. Au Louvre, la RMN n'assurait déjà plus depuis 2019 les visites guidées à destination des touristes, reprises par une agence qui s'appelle Pont des Arts, puis par Magma Cultura. Ces dernières, comme la plupart des partenaires privés, ne font appel qu'à des auto-entrepreneurs et tirent les tarifs vers le bas déjà. Donc c'est moins de revenus. Ces statuts précaires entraînent aussi un accès difficile à une protection sociale. Quand tu es auto-entrepreneur, ta protection sociale, ton assurance, la mutuelle, et la retraite, tout ça, les complémentaires, c'est à ta charge, quoi. C'est à toi de l'organiser, quoi. Donc ça fragilise tout ça. Congé maternité indemnisé au lance-pierre et une profession en plus qui est déjà majoritairement féminisée. Donc la question du congé mat, c'est important. Exemple concret, 2021, Léa, recrutée par une agence comme auto-entrepreneur pour effectuer les visites guidées au château de Versailles. Elle décrit une situation extrêmement instable. Sans assurance quant au nombre d'heures qui seront effectuées d'un mois à l'autre, les visites peuvent être annulées à tout moment par les groupes et ces heures prévues ne sont pas payées. Quand on est malade, on prend sur nous, on va travailler. On a aussi tendance à tout accepter pour être sûr d'avoir l'activité. Le résultat, ce sont souvent des journées de travail qui s'accumulent en haute saison sans jour de repos. Léa indique avoir déjà travaillé 12 heures d'affilée dans des conditions éprouvantes, tout le temps debout, hein, les guides, à arpenter de grands sites. Je fais entre 7 et 12 km par jour, parfois beaucoup plus. À la Fondation Cartier pour l'art contemporain, les activités de médiation sont assurées par des médiatrices culturelles embauchées parfois depuis plusieurs années en contrat à durée déterminée d'usage, le temps d'une expo, précarité, sans garantie d'être rappelées pour la prochaine. Entre chaque exposition, elles ont des périodes de latence qui font office de congés, sauf que ce sont des congés non rémunérés. Wallny, c'est dans l'humain, l'article. Courant 2022, donc dans cette fondation Cartier, près de 30 médiatrices culturelles se sont mobilisées pour réclamer de meilleures conditions de travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après des mois de négociations, la décision de la fondation Cartier est tombée, les fonctions de surveillance, d'accueil, de billetterie ont été externalisées et désormais assurées par une agence privée extérieure. Sur les 27 postes de médiatrices, 5 seulement ont été conservés. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Moi, je savais qu'il y avait un problème, je ne pensais pas qu'il était aussi étendu. Je vois que certains sont directement concernés dans le chat. Serein mais révolté écrit encore un métier dans lequel on se sert de la passion des travailleurs, exactement. Pour mal les payer et mal les traiter, c'est triste. Je vais remonter dans le chat parce qu'il y avait quelqu'un qui fait ce métier. Qui nous en parlait. Voilà, Paul Auchaud. Paul Auchaud. Je suis moi-même guide conférencier, c'est un métier mal payé, mal considéré, très très précaire. On est toujours dans une logique financière difficile de s'épanouir pleinement. Je suis en train de chercher à me reconvertir, je n'en peux plus. Et pourtant, c'est un beau métier que je veux faire depuis la troisième. Force à toi, Paul Auchaud. C'est dingue, hein. C'est fou, hein. C'est ça que dénonce ce dossier dans l'humain. Alors, l'auto-entrepreneuriat, Paul Auchaud vous remercie de tous les messages qu'il a vus. Qu'il ou elle, d'ailleurs. Alors, l'auto-entrepreneuriat, c'est bien. Alors déjà, parfois, ça permet de sortir des gens du chômage, déjà, de créer son propre emploi. C'est la liberté, hein, c'est l'indépendance aussi. C'est vivre de sa passion. Mais c'est aussi, y a aussi des aspects négatifs à ça, hein. Il n'y a pas de contrat avec une entreprise, on n'est pas sur un CDI bien sûr, donc voilà, le volume d'activité il peut varier. Il y a la question de la protection sociale, parce que c'est à toi de la construire, voilà. La retraite, tout ça. Et puis aucune certitude de stabilité quant à ton activité, quoi. Donc des revenus qui peuvent fluctuer, des revenus qui peuvent être très faibles, et puis pour emprunter de l'argent, quand tu vas voir une banque et que tu montes ton dossier et que le banquier voit que justement il y a une incertitude sur tes revenus futurs, ben, va courir pour avoir ton emprunt. Même question pour l'accès au logement, bien sûr, à la location par exemple. Doumso écrit, ce n'est pas un concours, mais si un jour on veut s'intéresser au même problème dans la recherche scientifique, je pense que beaucoup vont halluciner. Sombrani estime que l'ubérisation en général est un modèle assez inhumain qui est fait pour contourner les droits du travail et toutes les charges sociales. Yo-Yo Man, merci pour le 23e mois d'abonnement. Je lis encore un ou deux messages. Et après, je vais faire une prise de son. J'ai une vie passionnante. Hein, je vois de la colère dans le chat sur ces sujets. Hein. Astiaman, la logique de Macron et de ses maîtres à penser en économie, c'est qu'on s'en fout du moment que ça fait baisser les chiffres du chômage. Seul compte le solde de création d'emplois, peu importe leur précarité et le nombre de destructions. Dr Freeman parle effectivement du statut d'auto-entrepreneur et nous dit, sans doute en connaissance de cause, plus de la moitié du temps, c'est chercher des clients et faire l'administratif. En tout cas, merci à Luma pour ce sujet. Allez, pour s'aérer un petit peu, un petit horoscope, le petit concours de rapidité, le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat, ça n'est pas scientifique, on n'y croit pas, ça nous fait marrer, eh bien, je lui lis son signe. Et après, je vais faire une petite prise de sang. Alors, l'horoscope, il est là. Alors, ceux qui sont là pour la première fois avec nous ce matin, vous dites quoi, l'horoscope, qu'est-ce qu'il raconte ? On a un petit jeu ici qui n'a pas beaucoup de sens, c'est quand on arrive sur la page horoscope du Parisien, là vous avez la météo à gauche et l'horoscope, c'est la colonne de droite, et bien le premier, la première, à me donner son signe astrologique correctement orthographié sans faute d'orthographe, et bien je lis son signe, ça nous permet de dire des bêtises. Heureusement que c'est pas Bélier qui a... Ah ! J'allais dire Capricorne, mais non, merci French Guillaume, j'avais pas vu le lion. Heureusement que c'est pas Bélier, parce que Bélier a gagné hier et avant-hier, et j'aurais dit non, j'aurais mis mon veto, j'aurais mis mon 49-3. C'est Lion, effectivement, le plus rapide, ou la plus rapide, c'est Narimois qui a été le plus rapide. Capricorne n'était pas loin, Verseau aussi, voilà, Capricorne très rapide ce matin. Et donc c'est Lion, très bien, c'est Lion. Lion, c'est pour vous. Que vous réserve votre horoscope ? Est-ce que ça va être une journée de fou ? Est-ce que ça va être une journée caliente au niveau de l'amour ? Est-ce que ça va être une journée de réussite au niveau professionnel ? Voilà. Est-ce que ça va être une journée où votre santé va être resplendissante ? Est-ce que vous allez chatoyer dans la rue ? Est-ce que vous allez chatoyer dans la rue ? Est-ce que vous allez briller ? Est-ce que les gens vont se retourner sur votre passage en mode « Ah, oh, mais quelle est cette aura ? Oui, quelle est cette... Oh, mais quelle est cette personne ? Oh, mais c'est Michael Jackson ? Non, il est mort, c'est pas lui. » Lisons. Lion. Cœur. Une douce entente avec l'être aimé marquera la journée. Eh ! Wow ! C'est beau, non ? Lion, une douce entente avec l'être aimé marquera la journée. Si vous êtes célibataire, vous avez une journée pour trouver l'être aimé et là, il y aura une douce entente. Hein ? C'est bon, ça. Ça, c'est le cœur. La réussite. Si vous travaillez dans la création, vous serez inspiré. Waouh ! Pour les autres, aucune difficulté à l'horizon. T'as un lion, vous avez une masterclass d'horoscope, c'est la fête. C'est la fête. Dès comme ça, j'en vois pas tous les jours. Hein. Et je le lis tous les jours, l'horoscope. Attention, santé. On a parlé du Covid hein, qui revenait un petit peu là avec le nouveau variant là tout à l'heure. Attention, lion. Pff. Forme, bonne défense immunitaire. Ok. Lion, l'amour est au top. La réussite est au top. La forme est au top. Lyon, c'est la fête, comme le dit Tardigrade Explorer dans le chat. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Non, c'est pas tout. On va faire un raid, bien sûr. Les amis, je me suis régalé. Merci beaucoup de votre attention, d'avoir été aussi nombreux, de votre soutien, des subs, des abonnements. C'est désormais mon activité principale ici, hein, puisque voilà, la télé passe un peu au deuxième plan à la rentrée. Je garde mon petit plaisir question pour un champion, mais l'essentiel de mon temps, de mon énergie est investi désormais ici. Donc merci du soutien. C'était intéressant l'actu aujourd'hui, un truc sympa. Hein. Hop, ça c'est mon vieil ordinateur à raid. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On va aller soutenir quelqu'un. Hop, n'hésitez pas dans le chat. Bim, vous me proposez maintenant des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, des gens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce, un petit soutien pour découvrir leur travail. Hein, on fait ça? Attendez, je me mets sur Twitch. Twitch. On va faire ça ici. Voilà, ok. Je vous mets 2 minutes de musique. Pas une seconde de plus, vous pourrez chronométrer. Et dans 2 minutes, on fait un raid. Je vois déjà qu'il y a des propositions. Je vais vous mettre ça comme musique. Ça. Ouais. Ça, c'est bien. Je vous mets ça comme musique. Petite pub pour ceux qui sont pas abonnés. Et on se retrouve dans 2 minutes pour le raid. C'est toujours un moment important. A tout de suite, j'ai envie de dire. Bande de belles personnes. Elle est où ma musique? Ça? Ah, c'est ça, ouais. Alors on va où ? On the outside, looking in, I really wasn't sure what I was getting. Between the high waves, on the sea, waiting for something to get to me. I wasn't sure what I was hoping for, you see. But you act like ok, j'ai trouvé. Oh, ça a duré plus de 2 minutes, je suis désolé. Hein. Je m'excuse. Ok, j'ai trouvé parce que j'hésite, parce que vous me proposez plein de destinations sympas. Je vais voir pour les destinations que je connais pas. Puis après, je vois des gens que je connais, des streamers, des streameuses dont je connais le travail, que j'ai déjà raid. J'hésite. C'est très subjectif. Hein. Voilà, j'ai trouvé. Hop, le raid, c'est là. Hop, ici. C'est une streameuse aujourd'hui qu'on a déjà raid dans le passé, hein, que vous connaissez, je pense. Voilà, qui est une passionnée de jeux vidéo, et comme justement vous savez qu'à compter de la fin août là, tous les dimanches soirs 20h sur cette chaîne, vous avez un rendez-vous sur le jeu vidéo qui va s'appeler Ça me plaît. On va se régaler. C'est l'histoire d'un vieux machin qui s'appelle Samuel Etienne, qui a 52 ans, qui se plonge dans l'univers du jeu vidéo avec chaque dimanche soir à 20h une passionnée du jeu vidéo. Je me dis que un petit raid vers une streameuse qui justement est en train de jouer, je crois, à Minecraft, c'est une bonne idée. Lady Sunday, c'est l'objectif du raid aujourd'hui. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Saluez-la. Passez une belle journée. Merci pour ce matin. Soyez heureux. Rendez heureux les autres autour de vous. Et à demain matin, vendredi, pour une revue de presse. Merci pour tout. Ciao, ciao. C'est parti.